parce qu'il me proposait, c'est de vous parler de centrales nucléaires, de différentes générations, et puis de combustible.
Moi, ça me va bien, c'est à peu près ce que je sais le mieux. Alors, une toute petite introduction, ça c'est en une ligne. Ensuite, je vous tâcherai de vous décrire les principes de fonctionnement d'une centrale nucléaire. Et puis, je tâcherai de décrire un peu historiquement ce qu'on a appelé les générations 1, 2, 3, voire 3 plus. Il n'y a pas de 3 moins, hein, et puis il n'y a pas de 3 à moins ou 2 à plus, etc. Et puis, de s'arrêter un peu sur ce qu'on appelle les générations 4 et les surgénérateurs. Et puis ensuite, de parler de cycles de combustible. Et j'espère que je ne vous embêterai pas trop. Et à 9h, on éteint les lumières et on arrête. Vous êtes d'accord? Bien. Alors, en guise d'introduction, je vous rappelle simplement que on a besoin d'énergie pour produire 1000 kWh pendant une année. Il y a différentes façons de faire. Alors, on prend, si vous voulez, une centrale nucléaire. Ça consomme grosso modo 24 tonnes de combustible nucléaire. 24 tonnes, ça fait 2 camions, quoi. Ou bien on prend, il faut que je regarde parce que je ne sais pas tout par cœur, 1,7 million de tonnes de pétrole, ça fait 7 pétroliers. Je ne chicanons pas sur la taille du pétrolier. Ou bien on prend un peu plus de millions de tonnes de charbon, alors là ça fait presque 700 trains de 100 wagons. Et, ou bien on prend 4 milliards de mètres cubes de gaz naturel, je ne sais pas combien ça fait de méthanier. Parce que le méthanier, il donne son volume, non pas en gaz, mais en liquide. Et je n'ai pas eu le temps de calculer quel était le pouvoir de vaporisation. Ou bien on brûle des ordures et il en faut 500 000 camions, ou bien on met des éoliennes sur 365 km², ça fait grosso modo un carré de 20 par 20, à condition qu'il y ait du vent régulièrement réparti sur ce carré. Ça, c'est des chiffres qu'il faut savoir. Marie-Christine Arthuel vous en a donné quelques-uns la dernière fois. Bon, c'est pas pour vérifier que vous suivez, c'est pour vous donner des points de repère. Autre chose, une pastille d'oxyde d'uranium enrichi, c'est gros comme la dernière phalange du petit doigt. Ça pèse 7 grammes et ça peut produire autant d'énergie qu'une tonne de charbon. Et puis on parlera aussi de plutonium. Sachez qu'un gramme de plutonium, ça produit autant d'énergie qu'une tonne de pétrole. Et puis pour les générations qui vont venir, mais peut-être 2 ou 3 générations, quand on parlera de fusion, un gramme de fusion d'isotope d'hydrogène, ça équivaut, 1 milligramme, pardon, ça équivaut à l'énergie contenue dans un gramme d'uranium, donc vous multipliez encore tout ça par 1000. Mais, quand j'étais en thèse au CEA il y a 40 ans, on disait la fusion c'est pour dans 30 ans. Maintenant, on dit la fusion c'est pour 50 ans. Finalement, la fusion c'est comme la retraite, ça recule au fur et à mesure qu'on avance. Mais, ça n'est pas tout à fait mon propos. Alors, si on passe à comment ça marche une réaction nucléaire, il faut savoir qu'il existe des atomes qui peuvent se casser. On les appelle fissiles. Et ils se cassent sous l'effet, quand ils sont percutés par un neutron, qui est une particule élémentaire du noyau atomique. Et un neutron qui a une énergie adaptée. Et une fois que ce noyau fissile est cassé, les produits de fission sont libérés avec une grande énergie. Par exemple, ils ont une grande énergie cinétique, je l'ai exprimé en kilomètres par seconde, bien que ce ne soit pas tout à fait une énergie. Mais enfin, vous prenez un demi de MV2 et vous en sortez très bien pour calculer l'énergie. Et puis, on libère aussi l'énergie de cohésion du noyau. Vous vous souvenez, le poids des atomes, quand on les met sur une balance, est plus grand lorsqu'ils sont seuls que lorsqu'ils sont assemblés dans un noyau. Et puis, on libère aussi des neutrons qui, eux, partent avec une énergie considérable, une vitesse qui équivaut à peu près 20 000 km par seconde. ces neutrons, ils peuvent de nouveau percuter un autre noyau fissile. Ils peuvent le percuter, mais ils peuvent le fissionner ou ils ne peuvent pas. Leur énergie est en général trop grande pour amener à une fission. Donc il faut les ralentir, leur faire perdre de l'énergie. On en parlera un peu plus tard. Donc, progressivement, on imagine qu'à partir d'une fission, on va en entraîner plusieurs, et puis encore plusieurs, et puis ça va se démultiplier. Mais ça, c'est la description d'une bombe. Parce que si toutes les fissions se font dans un très court laps de temps, on aura une bombe. Le principe d'une centrale nucléaire, c'est de maîtriser la vitesse de fission pour que une fission suive une autre et pas des centaines d'autres. Donc il nous faut un rythme de fission constant, c'est-à-dire un rythme de production de neutrons fissionnants à peu près constant, sachant qu'il y a toujours des pertes qui se font dans les parois, etc. Alors pour ça, il y a quatre éléments essentiels pour une centrale nucléaire. Il y a le combustible, c'est-à-dire les éléments qui peuvent se fissionner. On peut citer l'uranium-235, le plutonium, alors c'est soit le 239, soit le 241, sachant qu'eux, ils ne sont pas dans la nature. Ils sont issus de réactions dont on parlera un peu plus tard. Donc ça, c'est le combustible. Il y a aussi ce qu'on appelle les absorbants, les barres de contrôle, qui sont là pour freiner la fission des neutrons, absorber les neutrons, et donc freiner la fission des atomes. Alors ces absorbants, c'est de l'actinium. Vous n'avez jamais entendu parler, peut-être, et puis vous n'entendrez plus jamais parler, peut-être, mais c'est un métal, un peu comme le titane, et puis, comme il a été réservé au début du nucléaire pour les militaires, on a inventé un autre absorbant qui est équivalent à l'actinium. Alors on l'appelle AIC, pourquoi? Parce que c'est un alliage argent, indium, cadmium. Bon, c'est équivalent, tout va bien, mais dans les années 70-73, le prix de l'argent a grimpé en flèche. Donc il a fallu inventer un autre absorbant qui coûte moins cher. Et comme ça, on est revenu à l'utilisation du bore sous forme de carbure de bore, B4C. Pourquoi ? Parce qu'un des isotopes du bore est très absorbant. Voilà pour les barres de contrôle. Alors ensuite, je vous ai dit, on fait de la chaleur. Cette chaleur, ce n'est pas encore de l'électricité. Donc il va falloir transporter la chaleur depuis le réacteur jusqu'au générateur de vapeur et ensuite à la turbine pour faire de l'électricité. Ça, c'est le rôle du caloporteur qui peut être soit un liquide, soit un gaz. Dans les liquides, on utilise l'eau lourde ou d'autres, et puis dans les gaz, l'hélium, le CO2, etc. Et puis après, il y a un modérateur. Alors le modérateur, c'est ce qui va permettre de faire baisser l'énergie des neutrons émis. Alors on dit qu'un neutron va passer d'une énergie de neutron rapide à une énergie de neutron thermique. Alors on dit que dans notre jargon de nucléaire, c'est un neutron thermalisé. C'est pas parce qu'il a pris les eaux, c'est simplement parce qu'il a perdu un peu d'énergie. Donc il faut ces quatre éléments en général. Parce que vous verrez que dans certains cas, on peut se passer de l'un ou l'autre. Enfin, l'un ou l'autre, c'est pas le frein. Qui aurait l'idée de se passer de frein sur une voiture? Alors, quand on regarde le développement des réacteurs nucléaires, ça a commencé vers 1942 aux États-Unis, 1954 en France, et il y a eu toutes sortes de types. Alors, la plupart de mes planches sont issues de documents épars venant du CEA. Ils ont un avantage, c'est qu'ils sont à peu près lisibles par tout le monde. Et puis on les trouve sur Internet, vous pouvez après les retrouver, etc. Les CEA ont inventé cette espèce de, non pas d'arbre généalogique, mais de filiation finalement, avec toutes sortes de réacteurs. Alors, tous n'ont pas eu une durée de vie très grande. Il y a des filières qui n'ont jamais débouché. On en a fait un ou deux, on a vu que ça marchait, et puis après, d'autres se sont montés plus intéressants. Alors, je ne vais pas toutes les décrire, parce que comment on va y passer la nuit, mais je citerai quelques-unes. Alors, j'en viens maintenant à différentes générations de réacteurs. Dans les années 50, au début, on a commencé à faire des réacteurs nucléaires, on les appelait après génération 1, la génération 1, on l'appelait 1 quand la 2 est apparue, ça c'est logique. Et ces premiers réacteurs on est parti sur des systèmes qui permettaient d'utiliser l'uranium naturel, c'est-à-dire non enrichi. Pourquoi ? Ben parce qu'à cette époque-là, on n'avait pas beaucoup de moyens d'enrichir l'uranium. Enrichir l'uranium, c'est, il y a deux isotopes, le 235, 0,7% dans l'uranium naturel, qui est fissile, et le 238 qui n'est pas fissile. Et comme un réacteur nucléaire, je vous le redirai, il faut, pour que ça marche, qui est à peu près 3 à 5% dans les cas, les types les plus usuels, eh bien, il faut bien l'enrichir. Il y a quelques milliards d'années, sur Terre, l'isotope 235, il était en concentration de à peu près 3 ou 3,5. C'est pour ça qu'il y a des réacteurs naturels qui ont divergé au fin fond du Gabon ou pas. Bon. Génération 1, en général, l'uranium naturel, pas besoin d'enrichissement. Et en général, pour faire du plutonium, pour faire des bombes, pourquoi ? Parce que c'est quand même l'argent, le nerf de la guerre, qui est donné aux militaires. Bon, après, on a simplement récupéré pour faire des réacteurs civils, ce qui avait été fait à l'époque, et on l'a transformé. C'était la génération 1, vous avez entendu, je reviendrai un peu après, vous avez entendu de réacteurs graphite gaz. En France, ils étaient à Marcoule, c'était pas tout à fait un réacteur qui donnait de l'énergie, mais il y a eu Chinon, Saint-Laurent-des-Eaux, et puis Bugey 1. Actuellement, ils sont tous arrêtés, pas les Français, et en cours de démantèlement. Il en reste encore quelques-uns en Angleterre, de la série Maniox, dont le dernier vient de s'arrêter ou va s'arrêter, je ne sais plus exactement. Alors après, on s'est aperçu que, quand même, il y a eu le choc pétrolier de 73, et puis on voyait quand même à venir la chose, la consommation électrique devenait de plus en plus grande, et chaque pays cherchait à assurer son indépendance énergétique. Il fallait donc des réacteurs plus gros. Pourquoi plus gros ? Parce que le prix du courant électrique est un peu moins, diminue un peu quand la taille du réacteur augmente. Enfin, ça a des limites. Hein. Donc, et on s'est aperçu que les réacteurs de graphite gaz, on ne pouvait pas les faire beaucoup plus puissants que 400 MW ou 500 MW. Hein, alors qu'il devenait très rentable de faire des réacteurs de 1000 MW, voire 1500 comme à l'heure actuelle. Donc on est passé sur d'autres filières, qui étaient des filières dites à eau légère, soit à eau pressurisée, soit à eau bouillante. Et puis, bon, ça a duré, et il dure encore. La plupart des réacteurs français, non, la totalité des réacteurs français en exercice, sont de génération 2. Alors, ils ont eu des modifications, des évolutions au fur et à mesure que l'expérience arrivait. Chaque électricien a tiré, chaque constructeur de centrale nucléaire a tiré parti des incidents ou des accidents qui sont arrivés. La fusion du cœur de TMI, de Sema-Eslin, en 1979. Bon. Vous suivez ? Et puis d'autres incidents de ce type qui ont fait la une de la presse ou qui l'ont pas fait. Hein, et puis après Tchernobyl, on a tiré parti, oui, mais pas directement parce que pour les réacteurs français, parce que c'est pas tout à fait le même système. Hein. Et puis on tirera parti de l'expérience malheureuse de Fukushima, etc. Donc il y a eu des évolutions au fur et à mesure. Et puis un jour, on a décidé de mettre en paquet toutes sortes d'évolutions. Et on a appelé ça la génération 3. 3 ou 3 plus. Alors, ce genre de différenciation, c'est pas flagrant. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que entre 1 et 2, il y a eu une rupture de technologie. Entre 2 et 3 et 3 plus, il n'y a pas de rupture, il y a une évolution. Et puis après, pour des raisons que je vous expliquerai quand on parlera de surgénérateur, on en est venu à se dire, ben oui, mais l'uranium, ça n'est pas en quantité illimitée sur Terre. On a peut-être aussi intérêt à l'économiser, d'où l'idée d'utiliser des surgénérateurs. Et on a mis ça dans un package qui s'est appelé Génération 4. Ok, pour cette historique. Alors, si on décrit un peu plus, je vous ai dit, les réacteurs, les premiers, qu'on a appelés UNGG en français, uranium naturel graphite gaz, c'est la série Chinon-Saint-Laurent-Bugey. Il y avait aussi à la même époque des réacteurs canadiens qui s'appellent Candu, quand comme Canada, D comme deutérium, eau lourde, et U comme uranium, qui fonctionne aussi avec comme modérateur l'eau lourde. L'eau lourde, c'est de l'eau dans laquelle un atome d'hydrogène est remplacé par un atome de deutérium. Le deutérium, son noyau, il contient un proton et un neutron. Ça marche, ça va. Et comme caloporteurs, ils sont refroidis à l'eau lourde sous pression. Alors après, il y a les RMBK. Alors j'ai même trouvé ce que ça voulait dire, mais vous me pardonnez l'accent. Réacteur Bolshoï Molchnasty Kiplatchi. À vos souhaits. Ce qui signifie réacteur bouillant de grande puissance. Grande puissance, c'est effectivement 1500 MW. Donc c'est un réacteur bouillant qui a équipé grosso modo 40% des types de réacteurs de l'ancienne URSS. Et dont Tchernobyl faisait, enfin les 4 réacteurs de Tchernobyl font partie. Alors c'est un réacteur qui fonctionne à uranium semi-enrichi. Enfin semi-enrichi, il est enrichi quand même. Mais 1,8%, c'est-à-dire qu'on a doublé un peu plus la concentration de l'uranium naturel en uranium-235. Il est modéré au carbone avec des blocs de graphite et il est refroidi avec de l'eau bouillante, c'est-à-dire de l'eau qui est liquide en bas de réacteur et qui est gazeuse, vaporisée en haut de réacteur. Et puis on a aussi les réacteurs à eau bouillante que en jargon anglo-saxon on appelle BWR, qui fonctionnent à l'eau à l'uranium enrichi, 3 à 5%, et qui sont modérés et avec caloporteur, l'eau bouillante. Ah oui, 5%, c'est une limite imposée par tous les pays qui ont signé le traité de non-prolifération, parce que ça ne permet pas de faire des bombes quand on n'enrichit pas à 5%. Donc vous comprenez les démêlés de l'Iran avec les États-Unis, l'Europe, l'AIEA, quand ils disent on veut enrichir à 20%. Ça fait un peu suspect. Surtout quand à côté de ça, ils font une usine d'eau lourde. Mais je ne fais pas de politique, simplement pour vous éclairer un peu sur qu'est-ce qu'on voit dans la presse et pourquoi. Alors après, il y a aussi la grande classe des réacteurs à eau pressurisée, qui sont les plus nombreux, qu'on appelle aussi PWR ou VVER chez les Russes. Mais là, je n'ai pas trouvé ce que ça voulait dire VVER. Tant pis. Alors, c'est des réacteurs qui fonctionnent à l'uranium enrichi, de nouveau entre 3 et 5%, voire avec du combustible MOX, dans lequel on a recyclé du plutonium, je vous en parlerai dans le cycle du combustible, et qui sont refroidis et modérés à l'eau sous pression. Et puis, il y avait aussi en France, des réacteurs rapides, tels Phénix et Super Phénix, qui étaient alors, ils fonctionnaient avec de l'uranium enrichi ou du plutonium, qui n'avaient pas de modérateur, c'est-à-dire que il n'y a pas besoin d'un neutron ralenti à faible énergie pour provoquer une fission d'un noyau de plutonium, et qui étaient refroidis à du sodium liquide, au sodium liquide, qui est un métal un peu dangereux. Quand on laisse tomber un pain de sodium sur l'eau, ça fait boum, ça gicle, ça, enfin, à ne pas faire. Et quand il y en a 5000 tonnes, le sodium réagissant à l'air et à l'eau, c'est quand même pas des plus pratiques, on n'a pas ça chez soi. Alors ça c'est juste un petit tableau sur lequel je ne m'étendrai pas. Il y avait en 2010, c'est la colonne du milieu, 438 réacteurs nucléaires dans le monde en service, et vous voyez que une bonne moitié sont des réacteurs à eau pressurisée, grosso modo un quart à eau bouillante, c'est la ligne du haut, et tout le reste, il y en a très peu. Donc retenez quand même, plus de la moitié des réacteurs en service sont à eau pressurisée. C'est donc la filière sur laquelle on a le plus d'expérience. Alors, comment ça marche? Il n'y a pas de souris. Le combustible, il est là, dans une cuve, avec un circuit primaire d'eau qui traverse le combustible et va ensuite échanger sa chaleur dans un générateur de vapeur et pomper et revient. Température d'entrée 290 degrés, température de sortie 320 degrés, avec des barres de combustible, des barres d'absorbant ou barres de commande. Un deuxième circuit qui est figuré là en bleu, qui est de l'eau secondaire, qui va devenir vapeur ici dans les hauts des générateurs de vapeur, et qui va entraîner la turbine, laquelle entraîne l'alternateur, et puis cette vapeur est condensée, soit avec de l'eau de mer ou de rivière dans un gigantesque échangeur, soit est refroidie avec un aéro-réfrigérant, et c'est les grandes tours dont on voit le panache, non pas de fumée, mais de vapeur, qui sort surtout quand il fait froid. Des réacteurs comme ça, ça existe, ça fait entre 300 et 1700 ou 1800 mégawatts. Et c'est de ce type-là qu'il y en a le plus dans le monde. Alors, dès la troisième génération, c'est-à-dire les années 80-90, on s'est dit, à ce rythme-là, on va quand même user tout l'uranium disponible sur la Terre et on ne laissera rien aux générations futures que des déchets dont Nathalie vous parlera la prochaine fois. J'espère. Si elle ne vous en parle pas, je peux revenir. Donc on a voulu économiser les ressources naturelles. Autre chose, on a voulu augmenter la sûreté. Sûreté, ça a un peu la même signification que sécurité. Et Nathalie en parlera aussi pour vous bien faire la différence. Et puis toujours, comme c'est quand même l'argent qui pilote le monde, diminuer le prix du kilowattheure. Et pour ça, on a fait des réacteurs qu'on a appelés avancés de troisième génération, ou de troisième génération plus, dont un certain nombre sont cités là, mais j'ai décrit un peu plus là. Alors, j'aurais peut-être pas dû commencer par l'EPR, parce que celui-là, il n'est pas encore en service, mais c'est quand même celui dont on parle le plus. Un EPR, c'est un réacteur de troisième génération, avec un peu plus de sûreté, je vous montrerai un ou deux exemples après, dont quatre exemplaires sont en construction en Finlande, en France et en Chine. On vous dit que l'EPR de France, il a 3 ans de retard, celui de Finlande, 4 ans, mais curieusement, ceux de Chine, ils n'ont pas un mois de retard. Ils risquent de démarrer avant les réacteurs européens. C'est quand même pas des plus pratiques si on doit aller découvrir des choses un peu nouvelles dessus. Bien. Et sachez aussi qu'on est en train de construire des pièces comme les générateurs de vapeur, les cuves, etc. pour quelques réacteurs qui seront installés en Angleterre. Alors personne n'en parle, mais on n'est pas maître de la communication des médias, etc. Ça m'étonnerait quand même qu'on fabrique des pièces si on n'est pas sûr de les vendre. Alors il y a un autre réacteur aussi fait par Areva avec Mitsubishi qui est un peu plus petit, qui est aussi un réacteur à eau précieuse qui s'appelle Atmea, qui reprend les mêmes éléments que l'EPR. Comme il est petit, il peut être installé dans des pays qui ont un réseau électrique moins fourni. Hein, on parle de la Jordanie, on parle des pays du Maghreb, enfin quand ils sont un peu stabilisés quand même, et qu'ils ont remis leur ligne électrique en état. Ou bien d'autres pays comme ça, parce que 1000 MW ça peut aller, c'est pas la peine de mettre 1500 MW s'il n'y a pas de réseau électrique pour les absorber. Un réseau électrique à construire, ça coûte à peu près aussi cher qu'un réacteur nucléaire, pour vous donner un ordre de grandeur. Donc c'est en milliards d'euros. Je ne me battrai pas pour essayer de voir si c'est 1, 2 ou 3. Ça dépasse largement mon salaire. Alors, il y a un autre réacteur qui est aussi Areva, qui est un réacteur bouillant, issu de la technologie Siemens Framatome, qui est devenue la branche Areva Nuclear Power, et qui est encore à l'état de... comment dire, en attendant sa certification. Alors, il a un avantage, c'est qu'il a plein de dispositifs de sûreté passifs. Et pas, en plus de ceux qui sont dynamiques. Et puis il y a un certain nombre de réacteurs. Un réacteur à eau pressurisée qui est conçu par Westinghouse et Toshiba, dont la certification aux États-Unis est acquise. Mais les États-Unis, ils ont décidé il y a quelque temps que finalement brûler du gaz de schiste, ça permettait de faire l'électricité moins chère que d'utiliser le nucléaire. Donc le réacteur il est certifié, mais il n'est pas encore ni commandé ni construit. Et puis il y en a d'autres qui sont des ABWR, donc des bouillants avancés, ou des APWR, des pressurisés avancés, et qui sont issus de la technologie General Electric avec quelques japonais, Alors je ne sais pas ce que ça va donner, parce que les Japonais vont peut-être quand même avoir d'autres choses à faire ou d'autres endroits pour mettre leurs sous, peut-être continuer à faire des réacteurs pour le moment. Et puis il y a les Coréens qui sont aussi très actifs. Donc il y a plein de monde qui s'y met. Si plein de monde s'y met, ça veut dire quand même qu'il doit y avoir un marché. Bon, là-dessus, sur la sûreté de l'EPR, je voulais juste vous montrer deux choses. On parle de quatre domaines dans lesquels la sûreté est augmentée. On a fait un énorme réservoir d'eau pour refroidir. Ok. On a des dispositifs qui permettent à l'enceinte de résister à l'explosion. Vous avez peut-être vu à la télévision les enceintes de Fukushima qui explosaient. L'enceinte extérieure, c'était un toit en tôle ondulée. Le réacteur, il était dans une enceinte en béton, oui, mais qui était très petite, et aussi il y avait une enceinte en tôle ondulée qui a agité. Ça ne peut pas se produire pour les réacteurs EPR. Ça ne peut pas non plus se produire pour les réacteurs de génération 2. Il y a par exemple, sur le plus ancien d'entre eux, les plus anciens de Fessenheim, des recombineurs d'hydrogène. Et lors de la visite décennale qui a eu lieu l'année dernière, on a mis l'enceinte sous pression à 5 fois la pression atmosphérique. Il n'y a pas eu l'ombre d'une fissure. Donc ça fait, même si c'est un réacteur relativement vieux, il a divergé en 76, il tient quand même un certain nombre de chocs, si je puis dire. Et puis le petit dessin en bas à droite, c'est simplement pour vous montrer le système de récupération de corium. Alors le corium, c'est un mélange de combustible fondu, de métal fondu qui vient soit de l'emballage du combustible, du gainage du combustible, soit de la cuve, de béton fondu, et tout ça, ça fond à 1200, 1300 degrés, et on a intérêt à le récupérer et à le refroidir, à le figer, en l'étalant pour que il fige, pour éviter qu'il fasse un trou dans la terre et qu'il aille dans les nappes phréatiques, etc. Comme c'est arrivé probablement à Tchernobyl et très probablement aussi, bien qu'on n'ait pas la preuve parce qu'on n'a pas été voir, au Japon, sur au moins deux réacteurs, les autres je ne suis pas sûr, mais au moins deux. Donc voilà les systèmes qui ont été inventés et mis en place déjà depuis très longtemps sur l'EPR. Alors, dans les perspectives de renouvellement du parc EDF, alors l'idée, enfin le diagramme il vient de 2005. Vous voyez qu'on est sur un plateau à peu près avec 60 gigawatts d'énergie installée. Et puis on s'aperçoit que dans les années 2050, on va passer plutôt à un plateau vers 50. Donc il y aura une diminution qui était prévue déjà en 2005 par EDF. Et cette diminution, elle va s'accompagner de deux choses. D'abord, une demande de prolongement de la durée de vie des centrales, c'est la zone qui apparaît en orange, et puis le développement en bas à droite en vert foncé de ce qu'on appelle la génération 3 ou 3+, c'est-à-dire les EPR à partir de 2020, et puis une génération 4 qui prendra un peu le relais à partir des années 2030 ou 2040 dans ces zones. Donc voilà les perspectives qui étaient données par EDF bien avant la campagne électorale qui s'ouvre devant nous. Alors, quand on va, je suis en train de passer gentiment aux générations 4, il y a 5 principes de base qui ont orienté vers cette génération 4. Le premier, je l'ai déjà cité, c'est économiser les ressources naturelles, c'est-à-dire utiliser au mieux ces ressources. La deuxième, je l'ai aussi cité, c'était l'économie, prix du kilowattheure le plus bas possible. La sûreté, on n'en dévore pas. Enfin, qui aurait l'idée saugrue de prendre sa voiture, de bloquer les freins, la direction, et de prendre l'autoroute en sens inverse. C'est débile. En matière de nucléaire, c'est pareil. On ne transige pas avec la sûreté, même si ça nous coûte quelques réacteurs à Abu Dhabi. Une autre chose qui est très importante aussi, c'est de minimiser la production de déchets. Et pour minimiser la production de déchets, on n'a pas attendu génération 4. À l'heure actuelle, depuis déjà 20 ans, la quantité de déchets de toutes sortes, par réacteur et par an, elle diminue progressivement. Les réacteurs de génération 4, ils permettront de faire un saut. Et puis réduire les risques de prolifération, c'est-à-dire éviter que chacun ait la malencontreuse idée de faire des bombes pour aller embêter son voisin. La nature humaine n'est quand même pas très gentille. Mais c'est comme ça. Donc voilà les cinq principes fondamentaux. Ça, c'est simplement pour vous montrer trois scénarios sur l'utilisation de l'uranium. Alors, la courbe en orange qui montre très fort, elle montre la consommation d'uranium si on continue avec des réacteurs à eau légère et en suivant le besoin. Voilà. Il y a quand même une autre chose qu'il faut voir, c'est qu'il y a deux horizontales, il y a une bande orange, bon, elle n'est pas très orange sur le tableau, jaune pâle en bas, qui est grosso modo à 5 millions de tonnes. Ça, c'est les ressources en uranium qui sont connues. Et puis, la deuxième bande qui est un peu plus haut et qui va jusqu'à grosso modo 18 millions de tonnes, c'est la quantité d'uranium qu'on espère trouver sur la Terre dans les prochaines années. C'est ce qu'on appelle les ressources spéculatives. Mais si votre consommation dépasse même les ressources spéculatives, eh bien, ça n'ira pas très loin. Donc, très rapidement, mais déjà depuis les années 90, on s'est rendu compte que ce scénario ne fonctionnait pas. Et c'est pour ça qu'on a essayé de se lancer dans les réacteurs rapides. Alors, la première expérience en France, c'était Rhapsody 40 MW, Phoenix 250, Super Phoenix 1200, qui a été sacrifié sur... qui a été arrêté, mettons. Bon, j'ai dit que je restais politiquement correct. Qu'on en ait eu vraiment besoin, il est arrivé un peu trop tôt, mais les Allemands, les Japonais, les Américains, les Indiens, etc., continuent dans ce domaine. Et puis, ça donnera lieu, à partir de 2020-2030, à la mise en route, d'abord de prototypes, puis de réacteurs réels de génération 4. Alors, Génération 4, c'est un club de 12 pays, enfin non, 11 pays plus l'Union Européenne. C'est pas encore un pays. J'ai trouvé une petite image avec des petits drapeaux, mais c'était à l'époque où il n'y avait pas la Chine ni la Russie. J'ai pas actualisé, mais je les ai quand même mentionnés, qui se sont groupés pour essayer de faire des développements en commun. Pourquoi ? Parce que il n'y a plus aucun pays dans le monde qui a suffisamment d'argent pour se lancer dans un développement complet sur d'une filière. Donc, tous les labos se sont retroussés un peu les manches, tous les gouvernements ont craché au bassinet en traînant les pieds, en râlant, vous l'imaginez bien, et progressivement ça avance. Et ça avance pourquoi ? Pour développer un certain nombre de filières qui vont de nouveau se différencier en fonction de la nature du combustible, qui peut être de l'oxyde d'uranium, de l'oxyde de plutonium, voire du thorium, qui se différencie suivant la nature du modérateur, qui peut être de l'eau légère, de l'eau lourde, du graphite, ou j'en ai pas d'autres, de mémoire, ou de réacteurs à neutrons rapides quand on n'a pas besoin, et qui vont se différencier aussi suivant la nature du fluide caloporteur, de nouveau gaz ou liquide, ou sel fondu. Alors en fait, de tout l'arbre que je vous ai présenté tout à l'heure, on n'a pas retenu toutes les branches, on en a retenu 6. Et je vais vous faire un passage rapide sur les 6 en vous donnant quelques mots d'explication sur chacun. Alors, le premier, sur ma planche, mais c'est aussi le plus avancé parce que c'est celui sur lequel on a le plus d'expérience, c'est ce qu'on appelle le SFR, Sodium Fast Reactor, réacteur refroidi au sodium et rapide. Donc, il peut brûler du plutonium, il peut brûler de l'uranium, il peut aussi transmuter des produits de fission. On a bien essayé de le faire avec Super Phoenix, mais vous ne transformez pas facilement une 2 chevaux en Rolls ou une Rolls en 2 chevaux. C'est pour ça que c'est un peu cafouillé. Il est compatible avec un objectif non pas de 20140, mais de 2040. Et il y a un prototype Astrid sur lequel Areva travaille, ça j'en suis sûr parce que je suis aussi concerné, et qui devrait voir le jour probablement dans les années 2020. C'est-à-dire un Super Phoenix en mieux, avec moins de panne et répondant mieux à l'objectif, qui n'est plus tout à fait le même que celui de Super Phoenix. Bon, Sachant qu'il n'y a pas que des Français qui travaillent dessus. Il y a aussi des Japonais, des Américains, des Coréens, etc. Et c'est même pas les Français qui sont maîtres d'œuvre. Ça, je suppose que comme on a eu ITER chez nous, on a laissé au Japon la maîtrise d'œuvre de DSFR. Alors, un autre type de réacteur, il s'appelle LFR, pour Lead Fast Reactor. C'est des réacteurs dans lesquels le métal liquide, c'est du plomb fondu, voire du plomb bismuth. C'est quand même nettement moins réactif, le plomb fondu, que le sodium avec l'air et avec l'eau. Et je sais que les Russes avaient un sous-marin nucléaire rapide qui fonctionnait au plomb fondu. C'est-à-dire que non seulement il y avait de la vapeur d'eau à l'intérieur, mais il y avait l'eau de la mer à l'extérieur. Bon. Il a une caractéristique, c'est que le générateur de la vapeur est dans la cuve, ce qui permet d'augmenter un peu le rendement parce qu'on a moins de pertes thermiques. Ça fonctionne quand même du côté de 500 degrés, donc, ou 700 même. Donc au point de vue du cycle de Carnot, le rendement thermodynamique est bien meilleur, puisque ce rendement il est fonction de la différence de température entre la source chaude et la source froide. Ça vous rappelle quelque chose hein? D'accord, ça peut vous gratter, moi aussi. Mais je ne mettrai pas plus d'équations que ça. Alors, autre chose qui existe aussi, qui est sur le papier, qui s'appelle le GFR, c'est un gaz fast reactor, qui est un peu dans la lignée de tout ce qu'il y a eu comme réacteur à gaz et qui ont été développés. PMBR, c'est par les Africains du Sud, principalement, et GTMHR par des pays européens, dont la France. Il fonctionne à plus haute température, 850 degrés. Là, le caloporteur, le modérateur, il n'y en a pas. Hein, c'est un réacteur rapide. Le caloporteur, c'est du gaz hélium. Fonctionnant à 850 degrés, il est, théoriquement, sur le papier, il a un rendement de 48% à comparer aux 33-34 des réacteurs à eau pressurisée. Ben, ça veut dire quand même qu'on gagne beaucoup sur le combustible. D'abord parce que le rendement est meilleur et ensuite parce qu'on utilise un réacteur rapide. Et il y a, non pas un prototype, mais un programme de recherche qui devrait déboucher sur un pilote, hein, oui, ou un prototype, qui s'appelle Allegro et qui est dont le CEA est en charge. Je vous cite cela parce que, non pas pour faire cocorico, mais parce que c'est quand même ceux dont on entend le plus parler en France. Alors, un autre type qui est un peu issu des réacteurs à eau bouillante et à eau pressurisée, c'est un réacteur qui n'est pas à neutrons rapides, mais qui fonctionne dans l'eau supercritique. Alors, l'eau supercritique, c'est un truc bizarre. C'est de l'eau et c'est pas de l'eau, c'est de la vapeur et c'est pas de la vapeur. Au-delà de 375 degrés et je vous passe les centimes, quelle que soit la pression, on ne peut pas maintenir l'eau liquide. Donc on a un fluide, oui, qui n'est ni de l'eau ni de la vapeur, de l'eau liquide ni de la vapeur, qui a une densité de 0,4, etc. Et qu'on peut porter à haute température sans augmenter trop la pression, et donc augmenter le rendement, même en restant dans un régime de réacteur thermique. Alors, il fonctionnerait à 550 degrés, pression de 250 bars, et avec un rendement de 44%. Ça fonctionnerait parce que vous vous rendez quand même compte que les matériaux qui doivent rester pendant 10 ans, ce qui fait 80 000 heures à 850 degrés, sans avoir la moindre fissure, le moindre fluage, le moindre etc., ils ne sont pas encore inventés. Bien sûr, il y a des turbines d'avion avec des matériaux qui marchent bien, seulement elles sont révisées toutes les 200 heures. Donc là, il y a du boulot pour les jeunes générations. Hein. Alors, une autre chose qui est un réacteur à très haute température, Very High Temperature Reactor, il est destiné à produire de l'hydrogène en par décomposition thermique de l'eau. Fonctionne à 1000 degrés et à côté, il y a une usine de décomposition de l'hydrogène. Je ne pense pas qu'il voit le jour dans les prochaines années parce que si on a déjà du mal à trouver des matériaux qui tiennent à 850 degrés, a fortiori pour en trouver qui tiennent à 1000 degrés, c'est pas de mal à la veille. Alors, je ne sais pas si c'est un mythe, une utopie ou une réalité. Je pense qu'il n'y a quand même pas grand monde parmi nous qui verra ce genre de réacteur, même si la durée et l'espérance de vie atteint 150 ans. Mais c'est une opinion personnelle que je ne vous oblige pas à partager. Et puis, il y a un autre système qui s'appelle le MSR, Molten Salt Reactor, qui est un réacteur à sel fondu. Il y a une caractéristique, c'est que le combustible, il est directement dissous dans le sel. Le sel, c'est un mélange de fluorure, de lithium et de je ne sais plus quoi, avec des sels, des fluorures, d'uranium, de plutonium, voire de thorium. Ce réacteur, il a une particularité, c'est que, comme organe de sûreté, il y a ici une vidange. Si on a des problèmes, on vide le sel, un peu comme tout à l'heure on vidait le corium par terre, enfin il se vidait tout seul, on fiche tout et la réaction s'arrête. Pourquoi ? Parce que le sel est dilué et le sel est froid. Alors c'est génial, ouais, mais on a rarement fait un prototype là-dessus. On l'a étudié jusque vers les années 50 et puis on a arrêté parce qu'il y avait d'autres moyens de faire du plutonium militaire. Donc on n'a pas d'expérience là-dessus. Et puis, si on veut que ça débouche, il faut que ça débouche en même temps que les autres réacteurs. Sinon, il n'y a aucune chance, ce malheureux, s'il arrive 20 ans après. Ou alors, il faudrait vraiment qu'il ait des atouts. Et dans ce cas-là, on devrait quand même le savoir. Et puis, il y a quand même quelques petits problèmes sur le fonctionnement. Ce n'est pas aussi simple qu'il n'apparaît sur le chef. Donc, il y a un certain nombre de réacteurs possibles. Voilà. Mais il ne faut surtout pas oublier qu'on peut quand même faire des économies d'énergie et pas dépenser plus en électricité. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a plein de moyens de faire de l'électricité. C'est ce qu'on appelle le mix énergétique, dont les éoliennes, les panneaux solaires, le thermique, le gaz, etc. et l'hydraulique font partie. Je ne veux pas ouvrir de polémique, mais j'ai regardé hier soir. Pardon ? À condition de l'avoir fabriqué avant, oui. Oui. Et autant le fabriquer d'une façon propre et pas par vapeau craquage du méthane. L'important, c'est de raisonner globalement. Quoi. Parce qu'il y a des trucs qui marchent très bien, mais quand on regarde globalement, vous savez bien que le mouvement perpétuel, ça n'existe pas. Parce qu'on a toujours des pertes d'énergie. Donc il y a plein de choses. Peut-être que c'est des petites niches. Peut-être c'est autre chose auquel il faut penser. Et puis il faut aussi penser au recyclage, y compris du CO2. Si je vous dis fichier rétrope, ça peut encore vous gratter un peu. C'est un système de réaction chimique dans lequel on peut transformer du carbone ou du CO2 en essence. Les Allemands l'avaient bien fait pendant la guerre, la dernière guerre. Parce que comme ils n'avaient pas accès à du pétrole, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont allés chercher le pétrole de Bakou et faire la guerre aux Russes, ils alimentaient leurs chars, leurs avions, etc. avec de l'essence fabriquée à partir d'hydrogène et de charbon. Donc on peut imaginer un recyclage du CO2 ou du carbone. Évidemment, ça demande de l'énergie. C'est bien ce que font les plantes avec de l'énergie gratuite. D'accord, elles ne le font pas vite en faisant du bois puis du charbon. Donc tout ça, il ne faut pas l'oublier dans la course à comment faire de plus en plus d'énergie. Alors après, à moins que vous ayez des questions sur cette partie-là, les questions que vous pouvez en poser par écrit ou par oral. Oui ?
On va apparaître discrètement sur deux slides le mot thorium.
Oui. Je ne prends pas le joker tout de suite, mais je ne peux pas aller beaucoup plus loin, parce que, en fait, j'en sais trop rien. Il y a une grande polémique qui dit qu'on pourrait avoir utilisé comme ressource fissile le thorium. Pourquoi ? Parce qu'il est très abondant sur la Terre, beaucoup plus que l'uranium, 10 fois plus. Et donc, il faut savoir comment l'utiliser. Alors ce thorium, il est très abondant, d'après ce qu'on dit, moi je ne sais rien, je n'ai pas été voir, et il permettrait de faire moins de déchets, d'actinides mineurs, etc. Ça, c'est probablement juste. La difficulté, c'est que on ne sait pas très bien dans quel type de réacteur le mettre pour effectivement faire moins de déchets. Si c'est un réacteur à eau pressurisée, on ne fera pas moins de déchets parce qu'on sera obligé de le lier à de l'uranium ou à du plutonium. Et quand on veut le mettre dans un réacteur à sel fondu, eh ben en fait, je ne sais pas trop, je n'ai pas très bien identifié quels sont les points nus ou les points clés à lever avant. Donc je suis énervé de ne pas répondre complètement à votre question. Si vous m'envoyez un mail, je me documenterai et je vous répondrai, à condition que vous soyez un peu patient quand même. Mais pourquoi pas? Mais j'ai l'impression qu'il est très important de se faire une bonne idée de ce qu'on peut en tirer et pas de courir après un mythe comme l'hydrogène. L'hydrogène, on voit très bien déjà maintenant où ça coince. On peut faire des choses avec de l'hydrogène. On en a parlé ces derniers temps, une centrale solaire en Corse qui produit de l'électricité le jour, qui électrolyse de l'eau et qui brûle l'hydrogène et l'oxygène pendant les heures de pointe. Oui, ça marche. Ça marche pour, grosso modo, la pile à combustible, elle fait 100 kW. On n'a pas besoin de 100 kW, on a besoin de gigawatts, c'est-à-dire beaucoup plus. Donc, ce qui marche à petite échelle ne marche pas forcément à grande échelle. Donc, pour le thorium, je ne sais pas trop. D'autres questions? Oui.
Oui. Donc, souvent, on vous parlait dans votre exposé qu'on va faire des choses de plus en plus suivantes.
J'espère.
Donc, ça sera fait sur maintenant, mais vous savez dire que. D'autre part, comme vous disiez,
je réponds à la première question.
Oui.
Ces histoires de Coluche, là, plus blanc, plus blanc, elles sont aussi sûres que possible, mais quand on se rend compte qu'on peut faire encore plus sûr, on n'a pas le droit de le négliger.
C'est-à-dire qu'on ne sait pas si elles sont sûres.
Oui.
Ah non, si on peut faire plus sûr.
C'est la vérité qui blanc, plus blanc que blanc.
Ah oui, là, donc, quand est-ce qu'on peut dire?
Quand vous êtes allé sûr. Ah, mais non, on ne peut pas dire.
Non, on ne peut pas dire. Là, c'est assez sûr.
Non, parce que la sûreté infinie n'existe pas.
Je pense. Donc, assez sûr.
Je fais attention à quoi?
Bah, par rapport, par exemple, qu'il n'y ait pas d'accident, comme à Fukushima, où en plus on avait mis du MOX, qui a augmenté le risque.
Oui.
Parce que la fusion se fait à plus basse température. Donc, et on ne sait pas très bien ce qui s'est passé encore à Fukushima.
Non, je ne sais pas. J'avoue, on ne sait pas très bien.
Voilà, donc, quand on dit maintenant, donc voilà, donc, oui. La sécurité, c'est quand même savoir ce qui se passe quand il y a un accident.
Alors, comment dire? Je ne voudrais pas taper ni sur la tête de General Electric, ni sur celle de Delco, ni celle des Japonais, etc.
Les autres sont mauvais, nous on est très
bons. Non, on n'est pas très bons. On peut toujours mieux faire. Souvenez-vous de votre bulletin scolaire. Ah, pas seulement vous, le nôtre, c'était toujours que mieux faire. Hein? Et là, la société, c'est un peu comme ça. Et quand on se rend compte qu'on peut mieux faire, on doit mieux faire.
Ah. Quand on avait 20 sur 20, on ne nous disait pas que mieux faire.
Ça vous arrive souvent.
Parce que là, c'était.
Oh!
Maintenant, c'est pas vrai. 20 sur 20, c'est la sécurité.
Absolument.
Sûre.
Alors.
Et tant qu'on n'est pas à 20 sur 20, bien sûr qu'on peut mieux faire.
Je peux vous donner quelques éléments, mais je ne peux pas tout vous dire parce que tout le monde est assez habitué. Les Japonais, quand ils ont construit leur réacteur, Fukushima, c'était les années 70-80, ils étaient partis sur l'idée, qui était admise partout à l'époque, d'un tremblement de terre de magnitude maximale 7, des poussières soumises, encore des poussières, ça tombe beaucoup. Et donc, un raz-de-marée qui faisait une vague de 10 mètres ou de 7 mètres, comme vous pouvez. Et puis, ça c'était les années 70-75. Après, il y a eu le tremblement de terre de Kobe, c'était les années 80-85. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait un tremblement de terre d'une magnitude de 9. Alors, ils se sont dit, bah, le 9, ça peut exister, mais le 9 n'était pas bon. Donc, on a repris toutes sortes de calculs sur quel serait le raz-de-marée qui se produirait, etc. Et là-dessus, les géologiciens ont dit, maintenant, ils s'étaient trompés, c'est-à-dire qu'avec leurs moyens de calcul de l'époque, ils étaient arrivés à un résultat, et qu'avec des moyens plus puissants, on est arrivé à un résultat qui pour remonter le niveau de certains réacteurs, et pas de plus, pour reprendre en compte ces nouvelles données. Et là-dessus, je m'arrête parce que je ne voudrais pas rentrer dans la politique. Mais on s'est aperçu que ce qu'on avait appelé degré de sûreté plancher minimum ou optimum, c'était parce qu'il fallait aller plus loin. Et ça, c'est un peu l'expérience qui fait découvrir.
Donc ça va dans le sens de ce que je dis, puisque là, par exemple, je reprends aussi un terme que j'ai déjà dit, c'est l'argent qui mène le monde.
Oui, c'est
une. C'est la sûreté d'après ce que j'ai compris. C'est-à-dire que quand ça coûte trop cher, on évite quand même.
Eh bien, on est tenté de le faire.
Alors, une chose qui m'a aussi surprise dans ce thème-là, donc l'agence qui a fait une étude sur la sécurité des réacteurs en France.
Oui.
Elle dit, ils sont sûrs, pas de problème, on peut y aller. Mais il faut dépenser 30 milliards pour qu'ils soient plus sûrs. Est-ce qu'ils sont sûrs ou est-ce que c'est une sûreté bon, suffisante pour l'instant? Alors, ça me rejoint aussi à ça. Ça fait penser aussi à autre chose. Comme vous disiez, en Chine, là, il n'y a pas de problème. Ça avance. Parce que c'est vrai qu'il me semble que cette filière ne supporte pas beaucoup la démocratie. C'est-à-dire qu'on évite de mettre le débat sur la place publique, les décisions sont toutes prises. On ne sait pas trop où, on ne sait pas trop comment. Parce que c'est.
Il y a des gens qui ont.
Donc tout ça.
C'est bien. Alors, je vais essayer de répondre aux questions et je vais en alors, plus sûr, si vous regardez sur l'automobile, on vous met des airbags de partout en disant c'est plus sûr. Ben oui, c'est plus sûr. Est-ce que la cascade était moins sûre que la voiture actuelle? Oui, probablement. Mais il y a moins de monde sur les routes, on roule moins vite. Je ne pas pour respecter le code de la route, parce que là, ça serait un conflit intergénérationnel, que je ne peux pas déclencher. Mais le niveau de sûreté, c'est normal qu'il progresse. Et c'est même normal qu'il augmente. Ça, c'est un scandale qui diminue. Ça, c'est incompréhensible. Alors, on fait tous ces efforts pour le faire. Alors, maintenant, on dit, les réacteurs, l'autorité de sûreté nucléaire, la SN en France, a déclaré que les réacteurs EDF étaient sûrs. Et elle demande effectivement des enjeux. Combien 100 milliards
ou 40 milliards, on ne sait pas quoi.
Moi non plus. Ça me dépasse. Hein, pour qu'ils soient plus sûrs. Mais, je n'ai pas été voir dans le détail en quoi ça consistait. Alors, c'est vrai que j'ai entendu dire, le réacteur de Fessenheim, les réacteurs de Fessenheim, ils ont été construits dans les années 70. Il faudrait renforcer la tenue de la dalle à la fusion par le corium. C'est vrai. On le fait relativement facilement sur le PR, on construit d'abord le bas de la maison et ensuite le haut. Mais c'est vrai qu'on peut imaginer des systèmes pour renforcer encore la tenue de passive. La sûreté passive pour renforcer la dalle. Je ne sais pas bien comment. Hein. Et si je ne sais pas bien comment, je ne vois pas très bien comment on peut le faire. Mais ça augmentera peut-être la sûreté, mais ce n'est pas le seul moyen. Parce qu'il y a une autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que, vous vous souvenez de ce vieil adage, quand il y a le feu, on l'éteint, la première minute avec un réseau, la deuxième avec un seau, et après on l'éteint. Il y a quelque chose qui est très important aussi dans le nucléaire, c'est qu'il faut avoir des détecteurs suffisamment nombreux, fiables, bien placés, etc., pour s'apercevoir du début d'une dérive, du début d'un incident. Ça ne se fait pas immédiatement, ça prend un certain temps. Fukushima, il dit pas qu'on l'a vu mourir, mais entre la première minute, la première heure, la première journée, etc., il y a eu une évolution. Et si on avait pu réagir plus tôt, on aurait arrêté l'incendie entre guillemets. Donc, il n'y a pas que la sûreté passive, il y a aussi la sûreté active. Et là-dessus, on peut effectivement toujours améliorer. Sur une voiture, vous avez de plus en plus de détecteurs qui vous indiquent que les premiers qui sont vus, c'était il n'y a plus de plaquettes de frein, il n'y a plus de guide de frein. Le premier problème qui est venu, c'est qu'il n'y a plus d'essence. D'accord. Et ça, c'est pas de la sûreté, à part que vous étiez sur les. Et puis, c'est de devient de plus en plus. En plus sophistiqué, le drame, c'est que c'est parfois le détecteur qui vous met le voiture en carafe parce que l'électricité est en panne. Donc voilà un peu, je crois, dans quel état d'esprit on est. Et il ne faut pas dire que les réacteurs sont moins sûrs. Il faut dire qu'ils ont un niveau. niveau de sûreté qu'on peut encore améliorer.
Parce qu'à Fukushima, par exemple, avec l'Omnibox, on n'a pas augmenté le risque.
Je ne sais pas. Non, je ne peux pas vous dire. Il y a d'autres questions. Hein.
C'est vrai.
Mais je ne sais pas. Je peux...
On ne sait pas.
Non,
je... la réponse est non.
Je ne sais pas.
C'est non.
C'est non. C'est
le MOX n'a rien à voir. Fukushima.
Voilà. C'est une fusion.
C'est en fait.
Mais non, c'est une
fusion. Non, c'est pas là. C'est le problème n'est pas là.
Ça n'a rien à voir. Si, parce que si les réacteurs.
Non,
la fusion.
Non, mais en fait, la fusion est à peu près la même. La seule chose, c'est que si on dissémine du plutonium dans l'atmosphère, c'est un poison. Mais c'est pas plus un poison qu'un nicotine.
Oui,
je ne pas. Vous pas les mauvais, les mauvais. Oui.
On nous a donné un discours, par exemple, un pharmacologue. C'était des statistiques, c'est du calcul statistique. Il y a que 1 million de chances qu'il y ait un accident. Bon, tout le monde pense que un accident nucléaire, il ne doit pas avoir lieu. Donc, tant qu'on était dans cette. Tant qu'on avait cette affirmation, on se disait 1 million de chances, une chance sur 1 million. Excusez-moi, mais une chance sur 1 million, parce que c'est si on y répond. Une chance sur 1 million, voilà, ça fait.
Ça pourrait passer. Quoi.
Ça serait passé. Et sauf que. Mais on est en statistique et on ne peut pas se permettre qu'il y ait un accident majeur. C'est, chaque fois, c'est d'ailleurs la remise en cause de l'industrie nucléaire, une fois qu'il y a un accident majeur. Or, depuis, et si on tient toujours un discours de statistique, il y a 450 réacteurs dont on peut dire qu'on a multiplié le risque par 450.
C'est-à-dire comme ils ont vécu 50 ans.
Oui, non, mais on a multiplié le risque par 450, ouais. Et surtout, on a vu 2 accidents majeurs. Trois si on veut. Et on est dans la
position.
Donc c'est vrai, on a complètement augmenté le risque. Si on s'en tient au discours statistique qui était fait pour nous sécuriser à l'époque.
Je ne sais pas si le discours statistique était fait pour sécuriser. Parce que comme disait monsieur, on ne demandait pas la marge, on demandait la parole, on ne demandait la parole à personne. Et je pense que c'était surtout la chose qu'on savait le mieux faire à cette époque-là. Parce que il y a 30 ans, on avait beaucoup moins de retour d'expérience, et sur les 5 réacteurs auxquels il est arrivé de gros pépins, il n'y en avait encore aucun qui s'est fait tester. Alors depuis, la façon d'aborder les problèmes, elle a beaucoup varié. Pas que dans le nucléaire, dans l'énergie, etc. Et on essaye de prendre en compte non seulement la méthode statistique, mais les autres aussi. Mais je ne suis pas maître de la communication que j'ai faite. Je suis à peu près maître de ce que je vous dis. Et je viens vous voir pour les clés qui suivent, hein. Mais pour le reste, je ne suis pas maître. Ma communication est un peu choisie.
Je fais un remarque sur les minerais. Vous avez dit qu'il y avait 25 tonnes de minerais par réacteur et par an, ça permettait de faire une production d'énergie assez énorme. Attention, chaque année, on a besoin de 11 000 tonnes de minerais d'uranium. Si je prends l'exemple des 3 000 tonnes qui sont produites au Niger, pour produire ces 3 000 tonnes de minerais d'uranium, il faut 130 000 tonnes d'acier sulfurique, il faut 12 000 tonnes d'explosifs, il faut 160 000 tonnes de charbon pour faire marcher la centrale électrique au charbon qui est à côté, il faut 13 millions de mètres cubes d'eau. C'est-à-dire qu'on assèche les nappes phréatiques du Niger, et donc les dépenses qui ont lieu à côté de ces 3 000 tonnes de minerais sont immenses et énormes. Donc attention, ne disons pas que pour un réacteur, il faut simplement 25 tonnes d'uranium. Il faut aussi tout ce qu'il faut pour produire cet uranium, et les parcelles de 50 hectares sur 20 mètres d'eau, de stérile. Donc attention, on n'est pas neutre. En France, on a exploité des mines d'uranium. On a des lacs qui ont été mis d'abord en acte de plaisance ou à la place d'anciennes mines, donc dans les trous qu'on a creusés, et maintenant tous ces lacs sont interdits parce qu'il y a trop d'activité de temps, donc il y a des zones immenses en France, notamment dans le Limousin, où on a des problèmes de radioactivité dans l'eau courante du robinet, qui ont été résolus pendant quelques années par Areva il y a un an ou deux, mais qui vont se reproduire dans quelques années. Donc attention, ne pas dire que le minerai, c'est juste un petit truc.
Alors, je vais répondre à votre question dans la suite de l'exposé sur le cycle de combustible. Il faudrait juste rebondir sur une chose, je vous ai dit qu'il faut 25 tonnes ou 24 tonnes de combustible avec de l'uranium enrichi. C'est-à-dire que ce n'est pas de 25 tonnes de minerai, c'est beaucoup plus, puisqu'on est parti d'uranium avec 0,7% et on l'a enrichi à 4 kT. Et enfin, dernière question au milieu de la salle. Non, vous ne voulez plus ? Bon, après, je continue. Merci pour la pause. Alors, qu'est-ce que c'est le cycle du combustible ?
Ben, c'est un vocable qui est utilisé pour décrire tout ce qui se passe depuis l'extraction de minerais jusqu'à l'enfouissement ou autre chose de déchets qui concerne le combustible nucléaire. Alors pourquoi on parle d'un cycle ? Parce qu'il y a un endroit ou l'autre, on fait une boucle. Alors on commence par extraire le minerai, on va ensuite sur place le transformer en quelque chose qui est un peu plus riche pour pas transporter de la terre, de la silice, etc. Après, on va le débarrasser de son oxyde de fer, etc. Et puis après, on va commencer à enrichir cet uranium naturel pour l'amener à 5% ou 4,5%. Cet enrichissement, il se fera après conversion. D'oxyde, le minerai c'est de l'oxyde, l'uranium, en fluorure parce que c'est gazé. Alors après, une fois que c'est enrichi, on va pouvoir faire du combustible nucléaire. Ce combustible va aller dans des centrales. Ces centrales vont consommer une partie de ce combustible et puis produire des déchets qu'on va ensuite séparer, trier. On fait bien du tri sélectif pour nos ordures ménagères et le reste. Et bien là, c'est un peu la même chose. Et une partie du combustible, enfin des produits valorisables, sont utilisés de nouveau pour refaire un cycle ou deux de combustible. Et puis après, quand les déchets ultimes, il faut les traiter. Et c'est tout ça qu'on appelle le cycle du combustible. Et je vais tâcher de vous en décrire les grandes étapes pour que vous ayez des points de repère. Alors ça, c'est une carte, elle est un peu ancienne, qui montre un peu où sont les ressources en uranium. Alors, ressources en uranium, ça ne veut rien dire. C'est à un certain prix. Alors le prix, c'est l'unité, c'est le dollar par kilo ou le dollar par litre. Bon, on voit que grosso modo, la France n'apparaît pas avec une barre bleue énorme. C'est l'Australie, c'est les États-Unis, c'est la Russie, c'est le Kazakhstan et c'est certains pays d'Afrique comme le Niger dont on vient de parler, mais aussi la Namibie et l'Afrique du Sud. Il y a de l'uranium, il est mal réparti. Alors ça, c'est l'uranium sur Terre. Parce qu'il y en a aussi plein dans l'eau de mer. Mais je ne vous dis pas combien ça coûterait de le récupérer. Hein? Alors, l'uranium, il est présent dans la croûte terrestre à raison de, en gros, 3 grammes par tonne. C'est plus que le mercure et c'est plus que l'or, mais ça nous fait une belle jambe. Alors, les minerais qui sont exploitables, c'est ceux qui contiennent 1 à 2 kg. 1-3 kg d'uranium par tonne. Sachant qu'il y a des mines, en particulier au Canada, où il y en a 10 à presque 70 fois plus. L'uranium, il n'est pas réparti uniformément. Alors, il est utilisé en mine à ciel ouvert. Alors, là-dessus, vous avez une photo d'une mine qui était dans le Limousin. Dans le Limousin, oui, la Crozier, je le situe par là, mais je ne suis pas très bon géographe. Enfin, c'est en France. Donc, c'est pendant son exploitation. On a exploité, on a fait un trou, et puis après l'exploitation, on voit encore la trace de la carrière qui avait été ouverte, dans laquelle il n'y a pas encore de forêt qui a repoussé, avec à côté, dans le fond, un petit lac. Grosso modo, Areva extrait 20% de l'uranium dans le monde. Ça, c'est pour vous donner un chiffre, c'est pas pour faire cocorico. Alors après, ce minerai, on va le concasser, on va le broyer, et on va extraire l'oxyde d'uranium par des moyens chimiques, d'où l'utilisation d'acide sulfurique, hein, pour séparer, et on va récolter un oxyde qui contient de l'oxyde d'uranium et de l'oxyde de fer. Et c'est parce qu'il contient l'oxyde de fer qu'il apparaît jaune rouille, et on l'appelle le yellowcake. Et c'est ça qui est expédié en fût. En fût, alors du Niger ça part par camion, du Kazakhstan ça part par train, d'Australie ça part par bateau, vers différentes utilisations. Alors après on va purifier, c'est-à-dire éliminer l'oxyde de fer par divers moyens chimiques qui vont aussi consommer et de l'électricité et des matières premières et de, etc., de l'eau. Et une fois qu'on l'a purifié, on va transformer cet oxyde d'uranium en un gaz qui est le fluorure d'uranium, le tétrafluorure puis l'hexafluorure. C'est un gaz qui boue à 35 degrés, quelque chose comme ça. Donc à la température ordinaire ou presque, il est gazeux. Et comme il faut avoir de l'uranium qui contient 3-4%, 3-5% d'isotope 235 et qu'on en a 0,7, eh bien il va falloir l'enrichir. Et il y a deux procédés industriels utilisés actuellement. Au début c'était la centrifugation, la diffusion gazeuse. Hein. Si vous avez une paroi un peu perméable, la molécule qui contient l'uranium 235 est plus petite que la molécule qui contient l'uranium 238. Étant plus petite, elle va diffuser plus vite. Et si vous faites passer ce mélange à contre-courant dans à peu près 1400 parois poreuses, et bien vous arrivez progressivement à passer d'un nominal de 0,7% d'uranium 235 à d'un côté quelque chose qui fait 3-4%, 3-5%, et puis de l'autre côté quelque chose qui fait 0,1 ou 0,01%, et en beaucoup plus grande quantité. Donc ça c'est le procédé de diffusion gazeuse qui a été mis en œuvre en France dans l'usine Eurodif qu'on appelle maintenant Georges Besse 1 à Pierrelatte, et pour laquelle ont été construites les réacteurs de tricastin. Cette usine d'enrichissement pour faire marcher les pompes, etc., consomme plus de la production de deux réacteurs nucléaires de 900 MW. Bon, c'était la technologie qui était utilisable dans les années 70-80. Après, une autre a été développée industriellement, qui est la technologie par centrifugation. Hein, de la même façon, les molécules qui contiennent l'uranium 238 sont plus lourdes, et donc si on les fait tourner dans un espèce de grand vortex, elles vont se mettre plutôt à l'extérieur, et le centre va être enrichi en molécules plus légères. Et avec de nouveau quelques centaines de centrifugeuses, on arrive à produire de l'uranium avec une concentration en uranium 235 qui nous va bien, de 3-5%. On peut même aller plus loin. L'immense avantage de cette technologie, c'est qu'elle consomme 50 fois moins d'énergie. Et Areva est en train de construire, de mettre en œuvre l'usine qu'on appelle Georges Besse 2, qui est basée sur le principe de la centrifugation. C'est-à-dire que quand elle sera en fonctionnement, ça revient à redonner la production électrique de deux réacteurs nucléaires à EDF, et ça fait l'économie de la construction d'un EPR qui fait 800 MW. Voilà. Alors après enrichissement, cet uranium qui est sous forme du F6 gazeux va être converti en oxyde. On va le faire réagir avec de l'eau et du CO2, et donc rejeter de l'acide fluorhydrique qui va être réinjecté pour fluorer l'uranium. Hein, on va quand même éviter de le mettre à l'atmosphère, parce que ça c'est quand même pas très marrant. Donc ici le gaz fluorhydrique est quasi en circuit fermé, et on obtient de l'UO2 sous forme d'une poudre noire qu'on va ensuite compacter par fritage, compacter puis friter, bon, un peu comme vous faites une boule de neige, hein, on va, et on obtient, après cuisson, c'est le fritage à 1700 degrés, une céramique un peu poreuse, avec 4-5% de porosité, qui est sous forme de petites pastilles, de petits cylindres, qui font grosso modo 8 mm de diamètre, et puis 13-14 mm de long. Hein, c'est une pastille pèse 7 grammes, et c'est ça que je vous dis, ça contient de la même énergie qu'un kilo de charbon. Alors ensuite, ces pastilles, il y a quelques images qui viennent après, mais je ne vais pas vous tout mettre sur la même planche. Ces pastilles, on va les enfiler dans des tubes qu'on appelle des crayons, et on va boucher les tubes aux extrémités. Alors ces tubes sont en zirconium. Pourquoi ? Parce que le zirconium est un métal qui est transparent aux neutrons. Ça évite quand même de perdre trop de neutrons. Et si on perd trop de neutrons, il aurait fallu enrichir plus, donc ça aurait coûté beaucoup plus cher, etc. Donc on a du zirconium. Le zirconium, il tient aussi à la corrosion par l'eau à 320 degrés, 340, et il a les propriétés mécaniques suffisantes pour tenir au fonctionnement normal et jusqu'à ce que les systèmes de sûreté se mettent en place aux incidents, aux excursions de température, 1000 degrés, etc. Donc on a le crayonnage, on fait donc des crayons qui font 4 mètres de long, entre 3,80 m et 4,40 m suivant le type de réacteur, et qui font 9,5 mm de diamètre. 9,5, ça doit faire 3 huitièmes de pouce. N'oubliez pas quand même que cette technologie, elle a été poussée par les Américains, et en particulier sur les réacteurs à eau pressurisée, c'était Westinghouse, dont Framatome a acheté la licence dans les années 72-73. Alors ensuite, ces crayons, ils sont assemblés en fagots, qu'on appelle les assemblages, avec des grilles qui ressemblent un peu à des coupes frites et qui vont tenir ces crayons et laisser passer l'eau. Donc en haut à gauche des crayons, on voit le bouchon. En bas, on les insère dans un squelette et on finit par obtenir un assemblage. Un assemblage, un embout supérieur, un embout inférieur qui sont en acier inox, et puis des crayons, des grilles. Les grilles sont maintenues, sont liées au squelette par ce qu'on appelle les tubes guides, et dans ces tubes guides peuvent coulisser les grappes de commande, les grappes d'absorbant, qui vont donc pouvoir arrêter les neutrons quand on a besoin de freiner un peu la réaction. Alors pourquoi on a besoin de freiner? Pour arrêter, mais on a besoin aussi de freiner pour passer d'un réacteur qui fait 100% de puissance à 30%. Pourquoi? Parce qu'on ne consomme pas autant d'énergie le jour que la nuit, l'été que l'hiver, et puis il y a la pointe de demande de 7h du soir, etc. Hein, donc les centrales nucléaires qui font en France à peu près 75% de la production électrique, comme cette production elle varie, la demande varie de 50%, il faut bien que les centrales nucléaires adaptent leur production à la demande. Hein, l'électricité est quand même quelque chose qui se stocke pas très bien, à part sous forme d'hydrogène ou bien dans des barrages en montagne ou bien dans quelques domaines comme ça. Alors ce qu'il faut voir aussi, c'est que au départ c'est la ligne du haut, on part avec 4% par exemple d'uranium-235 et 96% d'uranium-238, et puis au bout de 4 cycles, un assemblage ça reste 4 cycles, c'est-à-dire grosso modo 4 à 6 ans en réacteur, on a consommé de l'uranium-235, on en a consommé grosso modo les 3 quarts. Les 3 quarts de 4, il en reste 1, qui est ici. Là. Je vous ai dit, l'uranium-238, il n'est pas fissile, mais il est fertile. Fertile, je ne l'avais pas dit, ça veut dire qu'il est capable d'absorber un neutron à haute énergie et de se transformer en matériau fissile. Le matériau fissile, c'est du plutonium 230. Et ce plutonium étant à nouveau fissile, ils sont produits grosso modo 3%. Comme tous ces matériaux ont à peu près la même densité ou le même numéro atomique, on peut jongler en additionnant les pourcents, on ne fait pas une grosse erreur. Ça ne serait pas du tout le cas si c'était du carbone et de l'uranium. Donc on fait 3% de plutonium, et pendant le maintien en réacteur de l'assemblage de combustible, eh ben on va en consommer les deux tiers. Donc il va rester 1% de plutonium. Et puis, ben la consommation de l'uranium d'un côté et du plutonium de l'autre côté, ça nous a fait des produits de fission, qu'on appelle aussi actinide mineure, et qui vont être des déchets. Et ceux-là, ils sont un peu... Ce qui veut dire que... Non, des produits de fission plus des actinides mineurs qui viennent du plutonium. Et produits de fission et actinides mineurs, c'est ça les déchets. Ça veut dire qu'en fin de course, on a dans le combustible un mélange, un combustible usagé. Alors, pourquoi est-ce qu'on arrête et qu'on limite à, je vous ai dit, 4 à 6 ans? Parce que la gaine en zirconium, elle souffre aussi un peu, et il serait pas prudent de lui faire 5, 6, 7 cycles. Pourquoi? Parce que les neutrons qui traversent le métal, ça dérange un peu la gentille organisation des atomes. C'est-à-dire que on va déplacer des atomes. On appelle ça des DPA, des déplacements par atome ou par partage. Et quand on a deux DPA, si vous imaginez que la deuxième fois, au deuxième déplacement, l'atome revient à la place où il était la première fois, et bien vous trompez. Et c'est comme ça qu'apparaissent des défauts. Alors c'est des défauts de structure de la matière. C'est ce qu'on appelle une dislocation. Alors j'arrête là parce que ça va encore vous chatouiller un peu pour certains et les autres. Donc, le combustible n'est plus propre, la gaine du combustible n'est plus propre à faire des cycles et des cycles. C'est pour ça que le durée de vie est relativement limité. En revanche, la matière combustible, l'oxyde d'uranium de plutonium, il y a encore de la matière valorisable dedans. 1% d'uranium, enfin qui est enrichi à 1%, c'est-à-dire plus que dans l'uranium naturel, du plutonium qui est encore plus énergétique que l'uranium, et puis il reste l'uranium 238. Donc là, on va faire un traitement de cyclage et de recyclage du combustible. Alors, je commence, et puis Nathalie Moncoffre continuera la prochaine fois sur les déchets. On est d'accord? Je te laisse le reste, mais parce que je ne peux pas tout faire. Hein. Mais si tu veux un coup de main, on peut. Donc, les assemblages de combustible, une fois qu'ils sont sortis, ils entrent en réacteur. À chaque cycle, c'est-à-dire grosso modo tous les ans, tous les 18 mois, on va les redistribuer pour qu'ils s'épuisent de façon la plus homogène possible, pour essayer d'en tirer parti le mieux possible de ce combustible. Alors après 3-4 ans, le combustible est trop usé, donc on va le sortir. Et pendant un certain temps, on va le laisser se refroidir. Pourquoi? Parce qu'il y a encore de la chaleur résiduelle. On va le laisser refroidir dans ce qu'on appelle les piscines de bâtiments combustibles, dont on a beaucoup parlé aussi à propos de Fukushima, c'est pour ça que je l'ai écrit en gras. Et donc il va diminuer son activité neutronique, et puis aussi un peu ça. La température diminue relativement vite. Hein, en quelques 2 mois, 3 mois, la température tombe à moins de 50 degrés. À l'extérieur, au cœur, c'est un peu plus. Alors après, on veut récupérer la matière utilisable et trier les déchets. C'est le rôle du retraitement. Alors, il y a des pays qui ont opté pour le retraitement. Il y a la France, la Grande-Bretagne, la Russie, et puis il y en a d'autres qui sont en train de s'y mettre, et puis il y en a d'autres qui n'ont pas voulu faire du retraitement, c'est-à-dire qu'ils vont stocker leur combustible usagé tel quel, sans tel quel, oui. Alors en prenant des précautions, ça ne veut pas dire de le mettre n'importe où, c'est pas ce que j'ai dit. Mais sans le retraiter, sans séparer ce qui est très actif de ce qui est moins actif. Hein, pour essayer de concentrer ce qui est très actif et pouvoir le suivre plus facilement. Et c'est le cas des États-Unis, encore que ça commence à changer, puisqu'ils voudraient bien faire une usine de traitement des déchets. Mais ça, c'est un espèce de serpent de mer, parce que ils veulent, mais ils n'ont pas la technologie, ou du moins, comme ici, ils ne sont pas engagés, il y a un peu de l'avance. Mais pour un Américain acheté aux Français, c'est quand même pas très facile à admettre. Alors, le combustible, il a déjà refroidi dans les piscines de bâtiments combustibles des réacteurs nucléaires. Quand il arrive à l'AG, on le laisse encore se refroidir pendant, c'est pas écrit, 5 ans, 5-10 ans. Alors après, on va cisailler ce combustible. Alors évidemment, tout ça, ça se fait sous eau, en boîte à gants, etc. Hein, c'est pas à l'air libre. Donc il y a une cisaille qui va permettre de séparer les deux embouts en inox qui sont des pièces massives, et ensuite de couper les crayons de combustible, les grilles, qui sont devenus très fragiles du fait de l'irradiation, donc ça se cisaille relativement bien, en petits morceaux qui font ça bien. Et tous ces restes de gaines de combustible, qu'on appelle des coques, avec des morceaux de pastilles qui se sont effrités de partout, vont tomber dans une immense baignoire qui contient de l'acide nitrique. L'acide nitrique dissout l'oxyde d'uranium, de plutonium, les acides, etc., et ne dissout pas les métaux. Donc on va pouvoir séparer le métal, qu'on va ensuite laver, sécher et compacter, d'un jus qui contient le plutonium, l'uranium et tous les trucs pas très sympathiques. Alors, entre autres, on a récupéré aussi des produits de fission qui étaient gazeux, qu'on a lavé, filtré, etc. Donc on va séparer le métal des oxydes d'uranium, et ensuite on va séparer oxyde d'uranium, oxyde de plutonium, en se servant d'une séparation entre deux liquides. Quand on les mélange, c'est un peu comme la vinaigrette, mais si vous laissez décanter la vinaigrette, au bout d'un certain temps, il y a l'huile en haut et le vinaigre en bas. Parce que c'est ce qu'on appelle une ébullition. Alors on a un peu la même chose, on a des produits chimiques, alors je ne me souviens plus du nom, tributylphosphate, qui permet de dissoudre le plutonium, alors que l'eau permet de dissoudre le nitrate d'uranium. Et comme ça, on peut séparer uranium et plutonium. Et puis, on a séparé auparavant les autres éléments. Donc, on extrait, et là, je laisserai la parole pour la suite à Adèle. Ça te va? Bon. Ce plutonium, qu'est-ce qu'on en fait? Je vous ai dit, c'est une matière utilisable. Il est sous forme de nitrate de plutonium. On va de nouveau le transformer en oxyde. Et on va le mélanger à de l'oxyde d'uranium pour pouvoir le recycler. Et en fait, on appelle du MOX, du combustible MOX, qui peut faire encore un cycle en réacteur. C'est bon. Un cycle en réacteur, et on va tirer au maximum parti de ce plutonium fabriqué. Sachant qu'on a déjà tiré un peu parti au début, puisque je vous ai dit, 2% d'uranium-238 se sont transformés en plutonium et en énergie. 3 sont transformés en énergie. Alors, il y a une autre chose aussi que je voulais vous dire, c'est qu'il est question de faire du combustible MOX avec du plutonium dit militaire, qui a servi à faire des armes. Alors, c'est pas encore fait parce que c'est quand même pas des plus faciles. Le plutonium, c'est un poison chimique et ça se manipule tout en boîte à gants. C'est pas fait, mais c'est prévu dans les accords entre les Américains et les Russes, et les Russes et les Américains. La deuxième chose, c'est que cet uranium qui restait enrichi à 1%, on peut le réenrichir à 3%. C'est en particulier ce qui est fait en Russie, c'est-à-dire sachant que l'uranium et le plutonium n'appartiennent pas à Areva, ils appartiennent aux clients EDF, E.ON, etc. La matière fissile est propriété de l'exploitant, celui qui a la centrale nucléaire, c'est pas le fabricant de centrale nucléaire. Donc, les fabricants, ils prennent de la matière qui est mise à leur disposition, et il la transforme. Vous pouvez aller chez le bijoutier avec faire transformer des bijoux en or, vous restez toujours propriétaire de la matière. C'est un peu la même chose. Donc c'est cet uranium de retraitement qui a été envoyé en Russie pour passer de 1% à 3-4% et qui est ensuite revenu et qui fait beaucoup de polémiques en disant on a envoyé des déchets en Russie et il ne revient rien, etc. Bon, je ne rentre pas dans la polémique, juste pour vous dire, c'est celui-là dont on parle. Alors, ensuite, on va réutiliser cet uranium qu'on appelle URT, uranium de retraitement en français, en américain, je ne sais pas comment on le dit, sachant qu'on peut aussi utiliser, et là ça commence à se faire, l'uranium très enrichi qui était dans les armes nucléaires. La première partie des accords SALT aux États-Unis, c'était de, j'allais dire, civiliser l'uranium militaire, enfin une partie quand même. Et quand vous transformez un certain nombre de tonnes d'uranium enrichi à 90% pour le diluer à 0,7%, ça fait un certain nombre d'équivalents fuel, combustible, pour un certain nombre de réacteurs. Alors, je vous ai dit de quoi alimenter 636 réacteurs de 1000 MW pendant un an. Je ne sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien, mais on ne peut pas se permettre non plus de laisser ça n'importe où, n'importe où. Et donc c'est un moyen de rendre inerte ce combustible. Parce que si vous le laissez en état, il faut veiller à ce que personne ne s'en serve pour aller avec des intentions mauvaises. Ce que je voulais ajouter maintenant pour finir, c'est essayer de vous montrer sur ce grand camembert, dans le prix du kilowattheure, quelle est la part de l'investissement chaudière, c'est grosso modo un peu plus que la moitié, en bleu violacé. L'exploitation et la maintenance, c'est un petit quart. Et puis le reste, ça concerne le combustible. C'est-à-dire que le combustible intervient pour grosso modo de moins de 25% dans le prix du kilowattheure. Si vous comparez à du gaz, du charbon, etc., c'est beaucoup plus que 25%.
Est-ce que vous avez la plus
en Non, j'allais l'ajouter. Ce graphique ne prend pas en compte le démantèlement, la déconstruction des centrales.
Ni le stockage des chaînes,
si. Si, si, ça c'est compris dans ce qui s'appelle aval du cycle, là-bas à droite. Hein, le 5%...
Et les transports...
Les transports de... Non. Je ne sais pas si c'est pas dans l'épaisseur du trait. Hein. C'est quand même à la louche, hein, il faut pas... Mais je pense pas que les transports fassent 50% du prix du combustible. Je pense quand même que si... on exploite du minerai d'uranium du Niger qu'on l'envoie par camion de Arlit à Cotonou, il y a 2500 km, c'est qu'il y a, on doit y trouver un certain intérêt.
Et la mise en état des
ben pour moi c'est dans l'aval du cycle, mais j'ai pas les moyens de vérifier. Il faut dire que quand vous prenez des graphes. Hein?
Je suis pas sûr que ça soit bien fait, parce que j'ai eu l'occasion de faire des randonnées dans la Loire et il y a un lac qui est tout barricadé, parce que justement, en côté, il y avait un site d'extraction et ce lac est encore des problèmes, il est resté en l'état.
Je veux bien.
Il n'y a pas les moyens de remettre le site.
Ça, oui, on a toujours les moyens, c'est une question de fric. Oui. Mais ce qu'il faut quand même savoir, c'est que. Il y a l'énergie nucléaire, ça a plein d'inconvénients. Ça a un avantage, c'est que une particule radioactive, on la détecte à raison de une particule dans un mètre cube de matière. La précision du compteur Geiger, c'est une désintégration atomique par seconde dans un mètre cube de matière, que le mètre cube soit de l'air ou de l'eau ou du solide. Donc on sait au moins les détecter. Alors le drame, c'est que comme ça se détecte très bien, c'est facile d'en trouver partout. Nous sommes tous radioactifs et nous sommes tous en train de joyeusement nous irradier les uns les autres. Pas beaucoup. Le drame, c'est que, et c'est pour ça que l'exposé précédent était important, c'est de vous donner un certain nombre de points de repère sur les unités, sur etc. Alors, bien sûr, c'est radioactif, mais sachez raison garder. Évitez d'aller prier ou visiter les églises de Bretagne. Elles sont construites en granit. et c'est parfois plus radioactif que certains sites miniers. Alors évidemment, si vous allez gratouiller, etc., c'est autre chose. Mais et puis il y a sur la Terre des sites qui sont beaucoup plus radioactifs que d'autres.
Il y a un lotissement en France qui est construit sur deux radioactivités entre guillemets, où la radioactivité en une semaine, on n'est pas choisi la radioactivité annuelle, c'est supportable par chaque personne. Il y a des gens qui fuient ces lotissements, et ces lotissements sont construits, on a même construit sur des données. Dans ces mines, dans ces dépôts, où il suffit de faire prendre un homme, et les valises,
mais je
les valises de mesure étaient dans les formes, il n'y avait pas de radioactivité, mais si on avait la 3 mètres de la valise, on avait la radioactivité, mais j'ai perdu, en tout cas, un problème d'honnêteté qui est vraiment super, super.
Je veux bien être honnête, je pense que je le suis, je ne suis pas responsable de ce genre de choses. Je pense qu'il faut aussi se souvenir. Je ne cherche pas à attirer l'attention sur les autres, qu'on a fait le même genre de conneries, excusez-moi du terme, en laissant traîner des produits métaux lourds, etc., un peu partout. Hein. Et ça, l'inconvénient, c'est que ça ne se mesure pas, ou pas facilement. Le compteur GGR, ça permet de voir la radioactivité. Donc si ce qui se voit, on peut le détecter. Mais les pollutions chimiques, on ne les détecte pas. Et les pollutions bactériologiques, on ne les détecte pas non plus. Donc je ne dis pas que tout est beau et tout est rose chez les nucléaires, je dis qu'il faudrait avoir le même genre de choses et se méfier de tout. Parce que 1 gramme de mercure ou 1 gramme de cyanure restera 1 gramme de cyanure aussi pendant des milliers d'années. Et je pense qu'il faut avoir une conscience collective actuelle. Là aussi on fait des progrès en sûreté parce qu'il y a un certain nombre de choses qu'on ne savait pas il y a quelques 10 ans ou 100 ans. Je ne sais pas si vous vous souvenez, non. Vous avez peut-être vu des publicités sur les bienfaits de la radioactivité. Hein. Après Pierre et Marie Curie, on mettait de la radioactivité partout. Hein. Pourquoi? Parce que ça faisait vendre. Ce n'est pas forcément ce qu'on a fait mieux. Hein. Et on s'en rend compte maintenant. Donc le supprimer, c'est faire preuve de sûreté. Donc je ne suis pas maître de tout. C'est pas parce qu'on a fait des sottises par le passé qu'il faut continuer à en faire. Hein? Mais il faut d'une certaine façon assumer tout. Et puis, il y a même des choses qui m'ont beaucoup surpris. Il y a des régions en Iran où la radioactivité c'est 400 fois celle qu'il y a en Bretagne, ben, la radioactivité naturelle, en Bretagne ou dans le Limousin. Bon. Les Iraniens ne meurent pas de ça. Il y a d'autres choses qui sont très curieuses. Un jour, j'étais me balader en Auvergne, à Châtel-Billon, cité thermale, c'est bien connu. Donc, il y a 10 sources, tout le monde boit de l'eau. J'ai regardé un peu la composition. La composition en arsenic de cette eau thermale, c'est 100 fois la norme autorisée dans l'eau potable. Bon, et on y va pour ça. Donc là, je ne sais pas, moi, je ne sais pas. Bon, j'avais presque fini là-dessus, je n'ai pas répondu à votre question, pas complètement. Il y a plein de chiffres différents, mais comme on n'a pas ce qu'il y a derrière les chiffres, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les ordres de grandeur sont bons. Ah, on n'a pas mis le démantèlement là-dedans, oui.
Il est dans l'investissement.
Il y a
tout l'ensemble de l'investissement.
Ben, je vous remercie de le préciser, parce que sur le doc qui y était...
C'est un chiffre qui est valable comment? On n'a pas demandé de s'en
parler encore. Ah, si.
On a entre les États-Unis de la France, c'est différent. Les États-Unis en ont démantelé complètement une dizaine. C'est pour ça qu'ils ont en a dit. Est-ce que ça coûte beaucoup plus cher que chez les autres? Bon.
En France, on a démonté quelques-unes, c'était les graphiques de cœur. Pas complètement.
Ouais, voilà, oui.
Mais c'est...
Pas complètement.
Pas une, non, non. Il y en a six. Pardon?
La phase 3 démantèlement, mais
c'est pas... Non, non, non. Mais l'expérience des autres permet d'évaluer. Grosso modo, si on se trompe de 20%, c'est pas grave. Si on se trompe d'un facteur 20, c'est grave.
Oui, mais pourquoi l'EDF a prévu hein, que c'est moins cher, hein, donc des provisions moins que ceux des États-Unis?
Alors là, il y a une raison. C'est que EDF, il a 56 centrales du même tonneau, du même type. Et c'est un seul exploitant. L'exploitant aux États-Unis qui en a le maximum, je crois que c'est TVA, il y en a 7 ou 9, vous êtes peut-être plus au courant que moi. Mais c'est très peu. Eh ben, vous savez très bien que quand on a une, comment dire, un effet d'échelle.
Oui, si on l'a jamais fait.
Alors.
Si on l'a jamais fait, comment on peut savoir que ce chiffre-là.
Non, nous ne l'avons jamais fait. Nous ne l'avons jamais fait en France. On n'a pas démantelé de réacteurs à eau pressurisée, soit. Mais on peut. D'abord, il y a une expérience sur le début du démantèlement d'un certain nombre d'installations nucléaires, et là, on était jusqu'au bout. D'un certain nombre de réacteurs nucléaires graphite gaz, même si on n'est pas arrivé à la remise au sol net sur lequel on peut construire sa maison. Et ça, ça permet quand même. Et puis, plus l'expérience des autres aux États-Unis, dans un ou deux cas, je crois qu'ils sont allés jusqu'au bout. Et ça, on peut quand même évaluer leur retour d'expérience et faire des extrapolations.
Pardon ? C'est scientifique quand même, c'est évaluer, mais c'est pas très scientifique comme
débat. Non, mais évaluer, c'est un mot scientifique.
Non,
mais. Si on se trompe à 20%, c'est pas dramatique. Si on se trompe d'un facteur 20, ça l'est beaucoup plus. Vous êtes d'accord avec moi? Donc cette évaluation, elle est faite, je pense, avec une marge de manœuvre. Je dis 20%.
Vous pensez,
hein?
Vous pensez? Mais s'il y a dit, comment ça a été fait?
Je ne suis pas un spécialiste de la chose.
Oui, mais personne ne
le sait. Ah si, il y en a quand même qui doivent savoir.
Le public le sait.
Hein?
C'est publié dans la presse, par exemple, c'était publié.
Nous ne sommes pas maîtres de la publication de la presse. Je suis persuadé. Non, mais on peut le savoir. Je suis persuadé qu'on peut trouver ça dans les documents qui viennent du CEA, où il y a énormément de choses qui sont publiées.
C'est bien, quand ils donnent. C'est présenté à l'Assemblée nationale. Comment? C'est présenté à l'Office parlementaire de l'Assemblée nationale. Vous avez dit. Quelle discussion vous avez eue là-dessus? Non, ça se voit, vous allez sur l'Assemblée nationale, vous avez eu là-dessus.
Non, mais je vais faire un débat interne, parce que moi je suis en train d'enregistrer, je ne dis pas le bazar que reste. Donc,
j'avais oublié ça, excusez-moi.
Non, c'est pas.
Bon, je voulais juste conclure là-dessus. Je ne vous ai pas tout dit, parce que je ne sais pas tout, que j'avais 2 heures, que mon objectif n'était pas de faire de vous des savants. Et je voulais simplement conclure en disant, n'oublions pas quand même que, avec tous ces inconvénients, l'électronucléaire, l'électricité nucléaire, ben, ça permet quand même de faire de l'électricité sans trop d'effet de serre. Pourquoi je dis sans trop? Parce que quand on fait du ciment, eh ben, on est obligé de partir de carbonate de calcium, et quand on le transforme en ciment, eh ben, on fait quand même du CO2. Ça n'engendre pas de polluants atmosphériques. Beaucoup moins que la quantité de carbone 14 qu'on retrouve à côté des centrales à charbon. Il ne faut pas oublier ce détail. Alors, je ne sais pas si c'est carbone 14. Oui, 14. Une autre chose qui est importante, mais on en reparlera sûrement la prochaine fois, ça dégage moins de 0,1% de la radioactivité qu'on retrouve dans l'environnement. Ça produit moins de 1% des déchets toxiques, hein, c'est-à-dire beaucoup moins que l'industrie, etc. Et puis, bon, le fait que ça ait doublé l'indépendance énergétique française, c'était un objectif des années 73, par là. Je pense que c'est quand même intéressant de ne pas dépendre que des autres pays. Ça évite l'épuisement des réserves fossiles. On a utilisé l'uranium. Si on n'avait pas d'uranium, il n'y aurait déjà plus de pétrole. Il y aurait peut-être encore un peu de charbon, ça. Et puis, bon, que ça procure des emplois directs, je veux bien, c'est quand même important. Si on ne les avait pas trouvés là-dedans, on les aurait peut-être trouvés ailleurs, ça c'est possible. Ça rapporte quand même 5 gigas euros par an en France. Ça c'est un fait. La question que vous pouvez me poser, à laquelle je ne sais pas répondre, c'est, mais bon sang, qu'est-ce qu'ils en font? Voilà ce que je voulais vous dire. Je suis ouvert à vos questions, avec micro de préférence, sachant que je ne peux pas répondre à tout non plus parce que je ne sais pas tout.
Pour ça, qu'est-ce qui reste du nuage de Tchernobyl? C'est fini, il était passé sur la Corse, puis
je pense qu'en tant que de nuage, il ne reste rien. C'est-à-dire que les particules solides se sont déposées.
Oui.
On est d'accord ? Elles se sont déposées un peu partout, etc. Et de quoi étaient constituées ces particules ? Ben, principalement d'iode et de césium radioactif. La période de l'iode, elle est relativement faible. Donc Tchernobyl, c'était 86. 86, ça fait 15 ans. 25 ans. 25 ans, comme la période devait être de 12 ans. Pour le, c'est-à-dire qu'il en reste le quart de ce qu'il y avait, la moitié de la moitié. Et pour le césium, je ne me souviens plus de la période. 30 ans. Donc on arrive à peine à une période, donc on a... la moitié s'est désintégrée, enfin s'est transformée.
Donc c'est clean.
C'est
clean.
Non, c'est pas clean. C'est pas clean. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où ça s'est déposé en forte concentration qui ont peut-être encore une concentration supérieure à la normale. C'est tout. Je ne peux rien dire de plus. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
Bah, je veux savoir si toujours j'ai acheté des champignons.
Le risque n'est pas de les chercher, c'est de les manger.
Le père de Clermont-Guy, en génération 3 ou 3 plus, c'est
ça. Oui, je ne me battrai pas là-dessus.
Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'il y a autant de retard sur ce chantier alors que les technologies, entre guillemets, s'est maîtrisée, parce qu'un EPR, c'est plus beaucoup surréglé, on en a déjà fait auparavant.
Oui, mais curieusement, le retard, il n'est pas sur la technologie nucléaire, il est sur le béton, il est sur, etc. C'est-à-dire, c'est une nouvelle technologie, oui et non. Hein, on a quand même un certain nombre d'améliorations. Alors, actuellement, sur l'EPR de Flamanville, on en est à installer les gros composants. Et depuis qu'on commence à les installer, curieusement, il n'y a plus d'augmentation du retard. On n'a pas rattrapé le temps perdu, ça je suis d'accord. Hein. Et pourquoi est-ce qu'il y a eu du retard ? Alors, j'ai entendu dire que le ferraillage, il n'était pas fait comme il fallait. J'ai entendu dire que le béton, il n'était pas dosé comme il fallait. C'est le genre de sottise qui arrive à n'importe qui dans le bâtiment. Enfin, pas tout à fait n'importe qui. Je suis bien d'accord. Donc, si ça a été considéré comme important, c'est normal qu'on ait arrêté les travaux pour remettre les choses à niveau, en ordre. Hein, ça explique le retard.
Sur Tchernobyl, des représentants de la région rurale sont allés récemment à Tchernobyl. Ont constaté que le gouvernement ukrainien a besoin de beaucoup d'aide financière. Et le compte-rendu qu'ils en ont fait, c'est que la chape en béton qui doit être réalisée par Bouygues aujourd'hui n'est pas réalisable du tout. Parce que il y aura autour de la centrale des camions fortement contaminés qui sont enfouis autour. Donc ce qui empêcherait le choc en béton de se réaliser. Moi je voudrais poser une question politique aux représentants d'Arleban. On parle beaucoup d'Arleban en ce moment. Alors, il y a ce rachat à Areva d'une société canadienne qui avait des gisements en Afrique qui a plombé les comptes d'Areva. Deuxièmement, le gouvernement a obtenu le départ de nos dirigeants parce qu'il voudrait démanteler le vendre par l'eau à Areva. Donc qu'est-ce que vous savez de ça aujourd'hui?
Ben, je peux vous répondre d'abord que je ne suis pas représentant d'Areva.
Non, mais
pas porte-parole.
Vous avez peut-être des infos.
J'ai des infos qui sont les mêmes que les vôtres, oui. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai entendu parler de cette histoire d'achat d'uramine à un prix surfait, avec deux explications qui sont concomitantes.
Il y aurait un délit initié.
Pardon ?
Il y aurait un délit initié.
Pas à ce qui me concerne, quand même.
Ce sont des Canadiens qui sont très militants, les poches, en faisant monter les prix avant. Le rachat par un réseau de
Oui, alors j'ai entendu parler de ça, mais j'ai pas de moyen de vérifier. Ce que je sais quand même, c'est que le prix de l'uranium, il est fixé au jour le jour ou à la semaine, hein, et il varie, il a varié entre 100 dollars le kilo et 40 dollars actuellement. En particulier, il y a un effet Fukushima. Pourquoi ? Parce que le fait d'arrêter un certain nombre de réacteurs au Japon et en Allemagne fait que la demande est moindre. Et si la demande est moindre, le prix diminue aussi. Donc, comme une mine s'est évaluée sur deux éléments, ça c'est compréhensible, c'est-à-dire la quantité d'uranium contenu dans l'emballage mine d'une part et le prix, la valeur de l'uranium. Si la valeur de l'uranium diminue d'un facteur 2 ou d'un facteur 3, eh bien, le prix de la mine diminue, tant qu'on ne l'a pas vendu. Alors ça, oui, c'est compréhensible, je peux l'expliquer. Maintenant, qu'il y ait des lits d'initiés, que les Canadiens aient fait monter les prix, etc., je ne suis pas au courant suffisamment finement de la politique en la matière pour pouvoir vous répondre sérieusement. J'en suis navré, mais je crains fort que personne n'apporte vraiment de réponse.
On connaît le nom des personnalités.
Des noms circulent dans la presse. Mais il n'y a pas le mien.
Quant au démantèlement probable de l'arrêt par le gouvernement.
C'est un peu curieux parce que depuis 50 ans que les essais nucléaires existent en France, on n'a jamais démantelé ni EDF, ni Framatome, ni etc. Et je ne comprends pas très bien pourquoi ça se fait maintenant. On a arrêté Phoenix, Super Phoenix, ok, mais on n'a pas démantelé les sociétés. Et c'est bien facile de parler de suspicion, de démantèlement, etc. Mais on n'a pas de preuve, on n'a pas non plus l'ombre d'une explication pourquoi. À qui le crime profiterait-il ? Je ne suis pas dans les petits papiers d'Anne Lauvergeon. C'est pour ça que je ne suis pas représentant d'Areva.
S'il vous plaît. Ah oui,
voilà, oui. Ben, si vous logiez, vous verrez.
Non, mais...
C'est bon.
Après, je vous pose une question sur votre présentation. Vous savez, un livre que vous venez de lire, ce qui est pour moi une problématique, c'est dans le dimanche, pourquoi vous utilisez des métaphores toujours pour une minimité. Par exemple, vous avez utilisé la question de la voiture. Une voiture qui est à un temps interdit de l'autoroute avec un chauffeur,
oui.
Il va créer un certain nombre de dégâts. Mon approche est d'essayer des conséquences. Un chauffeur qui crée un accident dramatique, mais il va créer des morts un jour. Si on prend les conséquences de l'accident militaire, c'est pas un jour. Ce sont des milliers de chauffeurs qui disent je vais les trouver un jour. Pendant des millions d'années. Donc vous voyez, la question de la métaphore, c'est une manipulation aussi des esprits. De toute chose d'une, vous avez une vision aussi, vous avez une note, vous présentez comment ça marche, qu'est-ce que ça fait. Je suis d'accord. Je sais, et c'est à chacun d'entre nous de décider si c'est bien ou pas bien, c'est un
oui.
Peu de technologie. Quand vous dites, voilà, c'est une voiture qui est sur l'autoroute, c'est quelque part une manipulation ou alors une supercherie intellectuelle. Parce que ce n'est pas comparable. Et je prends un autre exemple, celui de vivre à la culture économique écologique, ça ne veut pas considérer comme écologie dans le sens où la question que nous ne pouvons pas évacuer, c'est de l'accident, elle est latente, d'autant plus qu'il y a un certain nombre de déchets, et qui vont créer quand même des dégâts qui sont très longs, si ce n'est pas irréversible. D'autant plus qu'il y a des conséquences humaines et autres. Donc c'est ça ce que je ne comprends pas. Ou alors vous présentez quelque chose, ou alors vous vous en à la présentation, attention à la métaphore. C'est pour ça que je vous dis, c'est vous voulez nous dire que c'est vous voulez nous dire que c'est vraiment quelque chose qu'on doit suivre. Là, à ce moment-là, je rentre dans la politique.
Non, mon objectif n'était pas du tout de vous embrigader d'une façon ou d'une autre. mais d'utiliser des images qui sont très imparfaites, je le reconnais, pour vous montrer le type de démarche intellectuelle. Il vous appartient à chacun de vous de vous faire votre propre philosophie et de ne pas suivre la mienne, que je n'ai pas d'ailleurs très exposée, je suis essayé de rester très neutre. Donc si j'ai été trop virulent dans mes images, ben, je vous prie de m'en excuser, ce n'était pas du tout pour vous imposer une vision. Mais ça aide quand même de prendre des métaphores pour comprendre. Le nucléaire, on a toujours dit, c'est compliqué, donc on nous cache tout. Je viens très humblement vous montrer quel est l'objet de ma propre démarche, comment j'ai essayé de comprendre. Je vous ai dit au début, ça m'intéressait. Donc si je suis entré dans cette maison, c'était pas pour rien, c'était pour essayer de comprendre. J'ai pas tout compris, même au bout de 20 ans, ça c'est clair. Je comprendrai jamais tout parce que c'est quand même, non pas compliqué, mais il y a énormément de choses et ça dépasse probablement ma pauvre cervelle. Donc j'ai aussi servi de ces images pour ça. Maintenant, je ne dis pas que c'est merveilleux, que tout est beau, que etc. Je dis, toute activité humaine consomme de l'énergie, génère des déchets, etc. Et il faut considérer cette activité de la même façon. Pas de la même façon dans les conséquences des actes, mais avec la même méthodologie. Maintenant, quand vous dites les déchets provoqueront des dégâts, je ne suis pas aussi convaincu que vous. Il existe des contre-exemples, etc. Mais je ne voudrais pas rentrer dans des polémiques. Mais il faut savoir que être humain sur la Terre, nous faisons de la transformation de tout ce qui est à notre portée. Nous respirons de l'air, nous le transformons en CO2, enfin de l'air, de l'oxygène, transformons en CO2. Nous salissons l'eau, nous, etc. Eh bien, même si les conséquences de notre respiration ne sont quand même pas énormes à l'échelle de la planète, pour chaque individu, on a beaucoup polémiqué sur les gaz émis par les vaches. Je trouve que c'est quand même pas tout à fait du même ordre que ce qui se passe à droite ou à gauche. Je pense qu'il faut avoir ce même genre de réflexion qui est relativement globale. Maintenant, à chacun de se fixer dans cette démarche que je propose, et pas qu'il y ait d'entendre bêtement ce que nous racontent les chaînes, les médias, d'essayer d'analyser mieux. Et c'est pour ça que je dis, je vais essayer de vous donner des éléments pour analyser. Mais Mathieu, maintenant, je sais que, bien que quelqu'un qui prend l'autoroute en sens inverse, il va faire un mort, il va en faire 10. Mais je ne suis pas là pour compter les morts. Je ne vais pas prendre comme argument que les mines de charbon tuent 10 000 personnes par an dans le monde. Ça ne me paraît pas du même ordre. Au contraire, je répondais tout à l'heure, s'il y a quelque chose à gratouiller sur la sûreté, il faut le faire. Que on gagne 1 ou qu'on gagne 1000 ou qu'on gagne 0,1, enfin peu importe l'échelle. C'est-à-dire que le progrès, il va dans le sens de maîtriser la sûreté, enfin, rendre toujours de plus en plus sûr. Même en admettant que c'était moins sûr avant, oui, je connais. L'homme de Cro-Magnon, son espérance de vie, c'était pas 80 ans. Non, c'est 78 ans, je crois, pour les hommes. La femme de Cro-Magnon ne mourait avant 80 ans. Donc on a fait des progrès un peu analogues à ce que j'ai appelé progrès dans la sûreté. Mais pour le reste, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. Et je suis navré d'avoir laissé entendre que je voulais vous embrigader. Ce n'est pas du tout mon propos. Oui.
Indépendamment justement des politiques de sûreté, vous avez présenté tout à l'heure au milieu les nouvelles centrales qui avaient un rendement plus élevé. Donc la question c'est, est-ce que ces nouvelles centrales, pour les gens de la recherche, faire courir des risques à un accident majeur, faire courir des risques plus importants que les autres, moins importants.
Je vois ce que vous voulez dire. Je vois ce que vous voulez dire, mais c'est pas facile à répondre.
L'autre facette de la question, c'est est-ce qu'il faut mettre plus de sûreté parce qu'il y a plus de monde qui sont...
Non, il faut mettre plus de sûreté parce qu'il faut mettre plus de sûreté. Alors, je prends un exemple qui est compréhensible. Dans un réacteur à eau, il y a les dangers qui sont liés à la pression. Si vous regardez l'histoire des machines à vapeur, au début du 19e siècle, il y a eu jusqu'à, en une fois, 1500 morts à New York parce qu'il y a la chaudière d'un bateau qui a explosé dans le port de New York. Bon. Donc il y a les dangers liés à la pression, il y a les dangers liés à la température, liés à l'irradiation. Si vous prenez un réacteur à sodium, il n'y a pas de danger lié à la pression, puisque ça fonctionne quasi à pression atmosphérique. En revanche, il y a les dangers qui sont liés au sodium. Mais c'est pas le même genre de choses. Et je ne sais pas si on peut avoir une échelle d'équivalence de danger pour avoir une échelle d'équivalence de sûreté pour comparer les deux. Ce n'est pas le même type de problème à résoudre.
Oui, je parle pas du danger local. La centrale peut exploser localement ou en fait, mais c'est sur ce que ça peut produire au niveau de la politique. Moi, est-ce qu'il y a plus de risques des centrales qui se passent?
Alors, je ne peux pas répondre directement parce que, en fait, j'en sais rien et je ne sais pas si quelqu'un pourrait le faire. En revanche, ce que je sais, c'est que plus la température est élevée, plus les matériaux, le contenant, souffre, est sensible à ça. Donc j'aurais tendance à dire, plus c'est chaud, plus les matériaux sont, entre guillemets, fragiles. Donc, s'ils sont plus fragiles, on peut imaginer que le danger est plus grand. Mais je ne sais pas faire une mesure de danger.
C'était une question. Je voulais dire par là, on pourrait dire qu'il faut peut-être prendre plus de précautions parce que.
Il faut sûrement. Il faut sûrement. Il faut sûrement, et c'est pour ça que j'avais dit, il y a deux choses dans la sûreté. Il y a sûreté passive, et puis il y a aussi la sûreté, avant d'être active, il faut détecter qu'il y a un risque au moment où il est en train de se produire. Et c'est pour ça que dans la sûreté active, le premier élément, le premier organe, c'est la détection. Et les gens qui travaillent sur les réacteurs à sodium fondu font un énorme effort sur la détection de ce qui peut se passer dès les premières secondes, hein, sans attendre une minute ou une heure. Mais je suis conscient de ne pas avoir répondu complètement à votre question. Mais vous avez aussi des moyens de répondre. Bon, vous avez d'autres questions? Je sais bien que vous êtes peut-être à jeun encore.
Vous dites que vous voulez seulement nous informer du nucléaire, mais quand je dis votre conclusion, le nucléaire c'est sûr, économique et écologique, je trouve que c'est quand même une sacrée prise de position en faveur du nucléaire. Et c'est pas simplement une information. Vous avez fait dire que le nucléaire c'est sûr après Tchernobyl et Fukushima, il faut quand même oser le faire. Économique, quand on ne prend pas en compte le démantèlement des centrales, ni le prix des conséquences des accidents nucléaires, parce que les constructeurs de centrales, une fois qu'ils ont construit les centrales, ils s'en foutent. Ce n'est pas eux qui vont payer pour tous les dégâts qui sont causés quand il y a un accident. Et puis écologique, quand on a sur les bras des déchets qui vont durer des centaines d'années, je trouve que c'est un peu gros pour cette conclusion. Voilà. Je trouve très choquant pour quelqu'un qui veut juste nous informer d'une énergie sans partie.
Je vous remercie de votre intervention. Je n'aurai pas le temps de répondre à tout. Il faut savoir de quoi on parle. Quand je dis écologique, j'ai dit avant, il faudrait savoir d'abord comment on définit l'écologie. Quelque chose qui ne participe pas à l'effet de serre, on peut le considérer comme écologique. Vous parlez de déchets, et là je crois que il faut parler de déchets, et la séance de la prochaine fois où on parlera aussi de déchets est très importante, parce qu'il faut aussi en parler au point de vue information. Il n'est pas juste, je ne marche pas sur les plates-bandes de Nathalie en le disant, il n'est pas juste de dire les déchets, on ne sait pas comment les maîtriser. On sait parfaitement comment les maîtriser. On sait qu'ils ont une activité pendant 10 000 ans, pendant 100 000 ans si vous voulez. La loi, les députés français, ils ont proposé, dans la loi Bataille de 2006, il me semble, hein, oui. Merci. Ils ont proposé trois pistes. Trois pistes, dont l'une est le stockage, évidemment sous contrôle, pas l'abandon en décharge publique, encore que maintenant le censurier. Une autre, c'est la transmutation, c'est-à-dire prendre un déchet et le transformer en quelque chose de moins dangereux, ou moins longtemps moins dangereux, ouais. Dangereux moins longtemps, je l'ai mis dans le bon ordre, voilà. Ou bien la troisième, je me souviens plus. Donc ça, ça existe. Et à partir du moment où on le maîtrise, ça devient sûr. Par rapport à d'autres industries, mais je ne voudrais pas lancer le débat là-dessus, le nucléaire, il n'a pas honte. Ah, ma conclusion est un peu provocative. Mais quand on y réfléchit, elle est fondée. Seulement, il faut faire bien attention à ne pas se leurrer. Qu'est-ce qu'on appelle écologie, qu'est-ce qu'on appelle sûreté et qu'est-ce qu'on appelle économie. Il existe un certain nombre de choses, de tableaux qui nous disent, dans un certain nombre de pays, le prix du kilowattheure est cher, on va venir moins cher, avec tout ce qu'on a pu intégrer dedans, comparé à d'autres. Il n'est pas forcément juste de dire, parce que ça n'apparaît pas sur le graphique que vous avez présenté, le démantèlement n'est pas pris en compte. Et puis, je dis aussi qu'on ne va pas pinailler sur 20% parce que c'est facile de mais le nucléaire, il n'est pas plus cher, beaucoup plus cher qu'elle.
Qui va payer les conséquences des dégâts après les accidents nucléaires? On veut voir cette débat, donc apparemment on s'en troisième jusqu'au 31. Mais merci beaucoup d'être venu, Pierre-Martin.